Bien cette chanson, elle est pas mal. On s'écoute les dernières secondes et c'est la reprise. Yes. Ouais. Bon, c'est reparti. Comment ça va vous? Ah, je suis content de vous retrouver. Bah, oui, il n'y a eu pas beaucoup de revues de presse ces derniers jours, parce que la semaine dernière, j'étais en question pour un champion. Et les semaines de question pour un champion, la journée, elle est très très sympa, mais elle est comme ça un petit peu. Pardon de faire chier, mais envoie un message d'amour. Oh. What? C'est vrai, Edvonis, ce que tu dis sur mon fugu, là? En vrai? Attends. Bah, quelqu'un me donne une nouvelle de fugu, là. Les amis, c'est plus important que tout. Excusez-moi, j'envoie un message. Bah non, devant, t'as raison en vrai. Je l'envoie un petit. Les gentilles personnes, il faut être là pour elles. Et Dieu sait si j'aime ce bien. J'aime bien ce garçon. Voilà, excusez-moi. Hop, 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 hop. Là, t'as bien fait en fait, en vrai. Bien sûr qu'on live tous les jours ici, Captain Hyacinthe. Attends, c'est l'objectif. Quand vraiment je live pas un jour, je suis un peu malheureux en vrai. Ouais, j'ai envoyé un message à Maxime à Fugue. Oui, bah c'est l'objectif quand même, tu vois. C'est la commu, on est témoin. C'est quand même les jours où je ne live pas, c'est exceptionnel. C'est vraiment qu'il y a un truc qui n'est impossible, quoi. Ou alors, on choisit de privilégier la famille avec une journée full, full famille, ce qui est bien aussi. Bon, désolé pour la semaine dernière, pas beaucoup de revues de presse, mais je vais essayer d'en faire un maximum d'ici la prochaine session de questions pour un champion dans 3 semaines. Sinon, oui, effectivement, on live tous les jours, ou presque. Tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, j'ai plus le bon téléphone. Ah, merde. Je vais lui envoyer un DM alors. Il a dû changer de téléphone. Désolé, je suis toujours avec Maxime. Copier. C'est la Sainte Pélagie aujourd'hui. Waouh, merci Captain Hyacinthe. Incroyable, c'est fou ça. Vraiment, je reviens pas en vrai. Désolé, j'envoie un message à Monsieur Fugu FPS. Non, pas Fufu, Fugu. Voilà. Ça a marché aussi. Voilà, c'est important. Donc voilà, puis quelle journée? On est mardi, c'est ça? Hier soir, on s'est fait un petit stream Diablo 4 de Tsu les Fagots. Et à l'instant, Julien Paris s'écrit: est-ce que tu as bien aimé Diablo? Alors, est-ce que tu comptes y rejouer? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à un truc aussi riche, avec un lore aussi intéressant, avec... d'interaction j'ai retrouvé les quêtes principales, les quêtes secondaires que j'ai bien aimé dans The Witcher, de Last of Us bien sûr, pareil Hermanino, ben j'allais en parler, c'est-à-dire que le problème c'est que je découvre trop de jeux auxquels j'aimerais rejouer au vu de mon emploi du temps, c'est-à-dire qu'en fait moi je suis au minimum sur le voilà. Et Elden Ring, dit Pépin Camille, bah ouais hein. Et puis alors il y en a un qui va dire et The Witcher, et puis il y en a un autre qui va rajouter et Valorant, et ouais et bah oui hein, et oui hein, alors que, et tous ces jeux je les aime, et Dordogne que je dois terminer, que j'adore, et oui, et les journées font 24 heures et je suis déjà au minimum au niveau du sommeil, et la revue de presse, et on me dit et la revue de presse, t'as oublié la revue de presse, et Until Dawn, et bien sûr voilà, et Five Nights at Freddy's que j'ai bien aimé, Detroit Become Human je l'ai fini mais je le referai, voilà, et la revue de presse hein, et MVP, il y en a un demain, un nouveau MVP, et Time Out. Et les petits streams de gaming comme ça, improvisés. Ah, c'est ça le problème. Bah oui, c'est pas que ça fait un sacré planning. Koro Kishu Shiku, ça fait un planning impossible en fait. C'est ça le problème. Il y a trop de jeux. Trop de jeux sympas. Voilà, oui, j'ai pas assez de vie en fait. C'est même pas assez d'heures dans une journée, j'ai pas assez de vie. Faut faire des choix, ouais, c'est impossible. Voilà. Donc, mais en vrai, c'est des soucis de riches. C'est-à-dire que c'est cool en fait d'avoir un jeu que j'adore comme Valo par exemple et d'en découvrir d'autres auxquels j'ai eu envie de jouer régulièrement, quoi. Bonne vaisselle de Reginald Pimous qui repart à la vaisselle. Donc, oui, j'ai envie de rejouer à Diablo 4. Alors, de toute façon, on va jouer à Diablo 4 demain soir, puisque aujourd'hui devait sortir, je ne sais pas qu'il n'y a pas eu de retard, la nouvelle extension, la Vessel of Hatred. Nouvelle extension de Diablo 4. Et en fait, demain soir, je joue avec Le Bouzeux, avec Alpha Cast, avec Trivia, Little Big Whale. On joue tous les quatre petits. Un 4 stack, on peut dire ça. C'est comme 5 stack sur Valo. Est-ce qu'on peut dire 4 stack? Un 4 stack, c'est possible ça? Un 4 stack sur Diablo 4. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Last of Us, obligé de rejouer. Until Dawn, obligé de rejouer. Valorant, obligé de rejouer, puisque là, ça commence à sentir le silver. Et ainsi de suite, quoi. Donc, attendez, je vais vous donner quand même le programme des prochains jours. Oh. Petit gym. Voilà. Salut, Jean Dios. Je vais remercier tous les subs, vous êtes adorables. Je vais remercier Adrien3150, Curido, Mirette01 à l'instant, et ton petit message, Grégistou, Aline41, RenDNG, les habitués sont là, 21 mois, la Mumzet, 37 mois d'abonnement consécutif. C'est j'essaie matin et soir, Maeva, mais c'est, parfois j'arrive à faire que le matin ou que le soir. On va faire un point, un planning dans un instant. Tahulette, merci pour le 3e mois. Mopinou pour le 36e mois. Vous vous rendez compte? Hazard01 pour le 38e mois. Après, c'est pas une compétition, mais ça impressionne. Ça pique les yeux quand même. Hein. Je crois qu'on est au maxi là. Oh, tain, il y en a qui approchent les 40 mois, quoi. Les 40 mois de soutien consécutifs. Hein. PH Bernka, Plasma X, merci beaucoup. Voilà. Et à l'instant, Payninou, merci pour le 5e mois. Voilà. Et encore merci, Mirette. Donc, il y en a qui vont arriver à 40 mois bientôt. Donc ce matin, revue de presse. Cet après-midi, je bosse sur le time-out de demain. Dans l'info, c'est une émission qu'il faut bosser un petit peu. Si je bosse bien et si je suis un peu fou, pour pas dire complètement con, je fais un petit live gaming MVP demain, pas time-out, pardon. Time-out, je vous en parlais tout à l'heure parce qu'il y a un nouveau time-out qui arrive là, coloré de Lyon, de la ville de Lyon. Je vous en parle ce matin, c'est pour ça que ça se mélange. Alors je répète. Cet après-midi, je bosse sur le MVP de demain. Je vais vous montrer le visuel dans un instant. Oui, PUBG, bien sûr. J'adore le PUBG, j'adore PUBG aussi. Donc cet après-midi, je bosse sur MVP de demain. Ce soir, si je suis complètement fou, je fais un petit stream gaming. Pourquoi complètement fou? Parce que c'est pas sérieux. Parce que demain matin, avant MVP, je vais vous montrer le visuel que j'ai posté il y a quelques minutes, là, sur le réseau social du diable, là, Twitter, là, où les gens se font la guerre, là. Demain matin, je fais une revue de presse. Donc là, la revue de presse ce matin, et demain matin, revue de presse. C'est même pas une revue de presse. C'est une revue de presse, puisque c'est deux à la suite. Donc demain matin, revue de presse. J'enchaîne avec MVP à 12h, à midi, avec l'ami Jean Massier, que je serai content de retrouver. Oui, oh my god, comme vous dites. Merci Fabos, merci Bina. Merci Alex Badgon pour le 24e mois. Merci Juntou pour le 8e mois. Merci Kigon pour le 9e mois. Waouh, waouh, waouh. Non, pas Gotaga. Vous savez, c'est Bakabou. Mais c'est pas le même mot. T'as Dodge qui dit « Oh, 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 Gotaga !» Non, c'est Bakabou. Voilà. Donc, le retour de l'ami Jean, que je suis très heureux de retrouver, qui va nous faire une chronique justement sur cette thématique. Est-ce que c'est vrai que dans le monde professionnel, quand on veut, on peut... Je spoil, la réponse est non, bien sûr. Voilà. Alors oui, c'est une des conditions sine qua non de vouloir et de vouloir très fort, ok, très bien, mais évidemment que ce n'est pas la seule condition et que d'où on vient, les origines sociales, les origines géographiques, le facteur chance, énormément de choses, évidemment, jouent dans une carrière professionnelle, dans une réussite, et c'est ça qu'on veut évoquer demain, quand on veut, on peut, on abordera d'ailleurs aussi la question du handicap, voilà, donc... Pépin Camille me m'ôte les mots de la bouche. Pépin Camille dit « Et le handicap ?» Et on en parlera aussi demain. Tout ce qui freine, en fait, la volonté. Voilà. Certains n'ont pas les mêmes réseaux, etc. Enfin, tout ça, vous le savez, évidemment. On va le développer demain avec Jean Massier, avec Jean Cora. Justement, un regard, à mon avis, intéressant là-dessus. Ludovic B, qui est notre spécialiste métier, qui chaque semaine nous présente des métiers sur lesquels il a bossé, sur lesquels il a fait des reportages. Bien sûr, la santé mentale aussi. Bien sûr, Framboise, tu as raison. Et Bacabou, qui est une créatrice de contenu que vous connaissez peut-être, qui sera aussi avec nous. Voilà, plus des invités. Il y a un invité surprise, il y a un invité métier. Voilà, et etc., etc. Trois chroniqueurs, là vous voyez les visages, et trois invités demain dans ce nouveau MVP. C'est le numéro, je sais plus, 4. C'est le MVP numéro 4. Bien sûr, Ludovic, ouais, monsieur Biganon, c'est le, notre 4, c'est mon chroniqueur permanent de MVP. Il est là à chaque émission, qui est tous les 15 jours, quoi, sauf qu'on a envie d'en faire deux la suite. Voilà. Ouais, demain, Alexandra, on parlera de handicap, effectivement, mais pas seulement. Alors, quand on veut, on peut, point d'interrogation, c'est un gros point d'interrogation. La réponse, c'est dans un monde idéal, oui. Évidemment que dans le monde dans lequel on vit, c'est non. Mais on va essayer de développer un petit peu toutes ces idées dans cette émission demain. Donc, ok, demain, c'est MVP. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Hein ? Merci, Jolene, pour le Prime. Vous avez démarré un train de live, tellement vous êtes fous. Merci, Mimured. Merci encore, Fabo Sébina. Ah non, je cherche, ça me déprime. Bah, tu m'étonnes, oui. Tu m'étonnes. Vu l'actu du moment, courage pour celle d'aujourd'hui, ça va pas être simple. Ah bah je vous cache pas que la revue de presse ce matin, on est plutôt sur les trucs qui sont pas réjouissants. Réjouissants, mais bon, c'est comme ça. Hein. Merci Néo, merci pour le 14e mois, tu régales. Donc, cet après-midi, je bosse sur un MVP. Si je suis fou ce soir, du gaming. Demain matin, revue de presse. Demain à midi, MVP. Demain soir, stream Diablo 4, nouvelle extension avec les amis Trivia, AlphaCast et le Bouze. Waouh. Jeudi, un stream gaming sur un nouveau jeu jeudi soir, c'est une surprise, un petit peu comme ce que je vous ai fait sur Diablo 4 hier. Ouais, 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 une petite découverte d'un nouveau jeu en solo. Et oui, ouais, vendredi, qu'est-ce que j'ai vendredi, un live gaming au choix. Voilà, je pense que ça sent Valo là, parce que j'aurais pas joué à Valo de la semaine. Un indice pour jeudi soir. Non, je peux pas vous dire. Vendredi soir, un petit stream Valorant, parce que j'aurais pas joué à Valo de la semaine, ce qui est quand même surréaliste. Dans lequel je vous ferai gagner des places pour la Paris Games Week. Ok. Samedi, anniversaire de mon grand avec ses copains. Donc là, ça va pas streamer. En plus, je vais voir mon petit papa à moi en Bretagne le soir pour son anniversaire à lui. Donc journée anniversaire le samedi, là ça va pas streamer. Et dimanche prochain, un nouveau ça me plaît avec un invité que je ne vous ai pas encore révélé à 20h, mais on jouera à Dofus. Est-ce que je me décarcasse pas quoi ? Est-ce que je me... Voilà. Et ça c'est une semaine tranquille. Hein ? Est-ce que je me décarcasse pas ? Merci Étienne LB. Merci à toi. Merci pour le 10e mois. Merci Néo pour le 14e mois. Hein ? Ah. T'es bien Dofus. Hein. Je me décarcasse quand même. Hein. Attends, il y a des travaux dans la cour là. On va les fermer la fenêtre parce qu'ils sont tout cassés. Donc voilà. T'as pas de tournage ? Ah ben j'en sors là. Je viens de taper une semaine Twitch Naruto de 6 émissions par jour. Là. J'ai posé des centaines de questions là. Tu vas me laisser faire une petite pause. Hein. Retour dans 3 semaines, question pour un champion. Ouais. Ah, mais le problème, c'est que chaque jeu que j'évoque, là, j'aimerais passer. J'aimerais jouer tous les jours. J'aimerais jouer tous les jours à Elden Ring. J'aimerais jouer tous les jours à Diablo 4. J'aimerais jouer tous les jours à The Last of Us. J'aimerais jouer tous les jours à Valorant, évidemment. Comment tu. Merci Deborah Lane pour le 27e mois. Qu'est-ce que tu... Dordogne ! En Dordogne, en deux streams, on va le finir. C'est un jeu qui est assez court. Jean-Jacques Goldman. Oh ! Jean-Jacques Goldman qui nous écrit. Bonjour Samuel, c'est Jean-Jacques Goldman. Oh, c'est incroyable. Je suis dans le métro parisien, il manque 40 euros pour prendre le métro. Est-ce que tu peux me faire une avance et je viendrai en live chanter si tu veux ? Attends, il y a Jean-Jacques Goldman qui va venir chanter pour 40 euros sur mon stream ? Mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Pour 40 balles ? Bah ouais. Bah je vais lui répondre. Attends, je vais lui répondre. Bonjour. Jean-Jacques. Je suis honoré. Je serais tellement fier de vous accueillir dans mon modeste studio. Ouais, j'ai du matos quand même. Pas de souci pour les 40 euros. Par contre, est-ce que vous prenez le ticket restaurant? Parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Incroyable. Attends, on va peut-être avoir Jean-Jacques Goldman ici, quoi. Merci, Ternalis. Oh, ça va être incroyable. Oh là 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 là. Ça va être super. C'est incroyable. Ouh, j'en ai les poils, j'en ai les frissons. On l'attend, Jean-Jacques. Je pense qu'il prend même le chèque vacances, dit Wolters. Bientôt Beyoncé. Bah, Beyoncé, ça. Tu crois qu'elle prend la ticket resto, Beyoncé? Bon, sinon vous, c'est bien beau ce que je raconte ma life, mais vous, comment ça va vous? Comment ça, vous, comment ça va? Goldman fait les restos du cœur, il prend forcément les tickets resto. Pas con, Taya. Ça va bien? Ça va bien? Ah, ça me fait plaisir. Qui va bien comme ça? Fino Cabron. Ça va pas trop mal, n'est-ce pas? Il pleut? C'est pas grave, ça. Chez nous, en Bretagne, quand il pleut, on se met en maillot de bain et on fait la danse de la pluie. C'est comme la danse de la forêt, mais c'est la danse de la pluie. Bof, Dr Strangelove, on va essayer de te remonter le moral. J'ai des infos catastrophiques ce matin, c'est que des mauvaises nouvelles. Appelé d'Astrand cette nuit, donc pas de taf ce matin, c'est cool ça, Azem. C'est cool. Bientôt les congés, la chance Rainbow. Merci Nobiwan pour le 38 mois. Ça fait 38 mois que tu me soutiens tous les mois. J'en ai fait un mini rototo de café là. Nobiwan, ça fait 38 mois que tu me suis tous les mois. Merci. Bof toujours, mais on survit en se sentant utile ici. Frambreoise, merci d'être avec nous. Matt, merci pour le 38e mois. Mais vous êtes combien à me soutenir depuis 38 mois? C'est le maximum du maximum, mais c'est l'armée des fidèles ou quoi? C'est la tempête chez moi, pas pu aller en cours, trop bien de noces. Oh Pouli, t'es malade! Nouveau boulot pour Pierrot El Fuego! Bravo, je viens de me faire... Ah, c'est ouf, il y a Pierrot El Fuego qui dit ça va, j'ai signé mon nouveau boulot hier, et sur la ligne du dessous, t'as Alexou qui vient de me faire virer. Attends Pierrot El Fuego, attends Pierrot, t'es pas en train de me dire que t'as pris le boulot d'Alexou? T'as Alexou juste en dessous de ton message qui vient de se faire virer. Et toi tu me dis que t'as un nouveau boulot. Pierrot, entorse au poignet, ah oui c'est pratique ça Néo. Pour jouer aux jeux vidéo. C'est... Rien ne se clair, rien ne se perd, on se transforme, c'est grave. Un petit 4 quarts maison du côté de Créma, avec le cappuccino. Tu trempes ton 4 quarts dans le café ou pas? C'est bon ça. Un petit coup depuis la Suède, depuis Pims from Shire. La pluie est passée à travers mon plafond hier soir. Il chambène. La pluie est passée à travers mon plafond hier soir, mais t'as pas de plafond. Mais t'as pas de plafond. La pluie peut pas passer à travers un plafond. C'est où qu'il pleut comme ça partout? Une heure de retard au boulot? Oh, the crap, c'est pas grave. T'as qu'à dire à ton patron que t'es en avance par rapport à demain. T'inquiète. Voilà, puis si elle fait pas rire, tu lui dis que c'est moi qui t'ai dit de dire ça. Que je te fais un petit mot. Merci beaucoup, Matt, pour... c'est quoi cette avalanche de sub? Merci, Matt, pour le 38e mois d'abonnement. Mignac, le deuxième mois. Pseudo pour le quatrième mois, Venise pour le Prime, Eragon pour les Beats, Train de Live, vous avez démarré un Train de Live, bande de beaux gosses, T-Bay pour le 37e mois, North Scoring pour le 32e mois, ok d'accord, j'ai l'impression d'être au The Event quoi. Ouais, ça fait péter les subs ce matin, merci à Lord Gamer. Ah, c'était sur Tours? Ah, bah, j'y étais là ce week-end à Tours. Dans le Var, il a plu toute la nuit. Incroyable. Oui, des fuites, C'est quoi ton PR à ton prime physique sur 10 km en course à pied? Ah, mon record personnel, tu veux dire? Or, j'étais pas un coureur de 10 km, moi. J'étais un coureur de... Je courais... Le plus court pour moi, c'était le semi. J'ai dû faire 1h30 au semi. Mais j'étais pas encore de 10 km, moi. De toute façon, je cours plus, je stream maintenant. Je peux plus tout faire. Merci Netherback pour le 7e mois. Merci Norskorik pour le 32e mois. C'est incroyable. T'investis quand dans la crypto, me dit The Alien Man. Mais jamais, j'ai pas de sous. Je viens de proposer à Jean-Jacques Goldman des tickets restaurant. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je peux mettre de l'argent dans de la crypto? Hein? T'y es fou, quoi. Ils sont fous. Premier stage important pour ma fille, donc très aimé aujourd'hui. Première année lycée. Trop bien, ça. Tu la féliciteras. Tu l'encourageras de ma part. Tu lui diras, Samuel, t'envoie de la force. Ah, le vieux, là. Moi, je suis un fonctionnaire qui va aussi bien que nos services publics. Si ça peut donner une idée, me dit Jeff McKnight. Ok, je vois. Merci, Netherback, pour le 7e mois. Ok, je vois. T'as jamais essayé de fractionner pour la course? Ah bah si. À l'époque où je tentais de faire des chronos, je faisais du fractionner, mais c'est dans ma jeunesse, ça. C'est fini, ça, maintenant. Je fractionne plus rien, là. Tu sais que je fractionne les gâteaux pour faire des petits bouts de gâteau. C'est tout. Exutoire, t'as vraiment fait cette blague de CP, là? Il y a Exutoire qui, évoquant mon week-end à Tours, vient d'écrire dans le chat une blague qu'on fait plus depuis 1978, qui est « T'habites à combien de kilomètres de Tours ?» Tu te fous de ma gueule, Exutoire? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais elle est illégale, cette blague. C'est impossible. On va en prison pour des blagues comme ça. Pas possible. J'en peux plus. Oh là là. Je fractionne les boss dans les jeux, c'est ça. Ça mérite un ban def. Non, Exutoire, c'est un pilier. Pépin Camille, oh, je viens de capter MDR. Ouais. Tu la connaissais pas? J'ai même pas compris, t'inquiète Mathilde, à fond. N'essaye pas de comprendre, c'est une des pires blagues qui existent au monde. Dans l'histoire de l'humour, c'est une des pires blagues. Putain, je suis méchant encore. Il paraît que même Gad Elmaleh a pas voulu la copier. Qu'est-ce qui me prend? C'est vraiment pas bien, ça. Samuel le toxique, c'est Valorant, ça. Ça, c'est Valorant, ça. Ça, c'est Valorant. Ouais, j'aurais pas dû. Non, j'aurais pas dû. Bon! Est-ce que vous êtes prêts pour une petite revue de presse? Vous êtes prêts pour une petite revue de presse? Petit sommaire pour commencer? Hein? S'il vous plaît, expliquez la blague, je vais devenir dingue. Non, Stix, je peux pas t'expliquer. T'habites à combien de kilomètres de Tours? Alors en fait, la blague, c'est sur t'habites. Voilà, c'est pas vraiment t'habites, où est-ce que tu habites, quoi. T'habites à combien de kilomètres? Ok. Bon, tu veux que je te fasse un dessin? Je sais pas si on a le droit sur Twitch d'ailleurs. C'est bon, vous l'avez? Vous l'avez? Ça va? C'est bon, tout le monde a la ref? Un dessin? Alors, est-ce que vous voulez un petit sommaire d'abord pour ceux qui n'ont pas 2-3 heures à me consacrer? Un dessin. Un petit sommaire pour avoir l'essentiel de l'actualité en 4-5 minutes? Ok, let's go. J'ai un petit top. Ok, c'est parti. Alors, dans l'actu ce matin, pas des trucs follement réjouissants. Hein. Voilà, j'ai hésité à me recoucher, en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ouvert les journaux, j'ai lu Le Parisien, j'ai lu Libération. Je l'ai toujours dans le même ordre parce que je suis un petit vieux. Parisien, Libération, Figaro, La Croix, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, Le Monde, L'Humanité, voilà. Et j'ai failli me recoucher, en vrai. J'étais pas, y a rien de folie. J'ai aucune bonne nouvelle ce matin. Voilà. Bon. Mais je me suis dit, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue de presse, donc je me suis accroché. Des nouvelles du gouvernement, de la politique de Michel Barnier. Je vous ai quitté il y a quelques jours en vous disant, c'est un peu le bordel quand même. Pour dire. Bonjour à tous, tiens. Ah. C'est un peu la merde, pour dire les termes. Eh ben, vous savez quoi? Rien n'a changé. Voilà. Le Premier ministre s'apprête à présenter son projet de budget. Hein, les recettes, les dépenses, voilà, dans un contexte de crise, puisque c'est que notre pays est un petit peu endetté. Voilà, et ça va être compliqué. Ça va être petit peu tendu à l'Assemblée, donc on a un petit article du Parisien là-dessus. Et le fait qu'il y a une première motion de censure. Ok. Ah, super. Excusez-moi, je lis un message sur une histoire de fromager. Ok, super. Parce que je fais des reportages sur les fromagers aussi. Et sur les gâteaux, j'ai plein de vie. J'ai plein de vie. C'est passion fromage, passion gâteau. Et donc, Michel Barnier qui fait face à une première motion de censure cet après-midi, déposée par le Nouveau Front Populaire. Alors, Le Figaro nous explique qu'il n'y a aucune chance que ça passe, mais voilà. Comme le dit El Dunari, parce que j'ai un chat de qualité, première motion de censure d'une longue série, vraisemblablement exactement. J'ai lu une quantité d'articles ce matin sur les... Alors l'expression est affreuse. Les bébés tueurs à Marseille, c'est-à-dire des gamins, des ados, hein, à qui des criminels donnent des contrats, hein, d'assassinat, de meurtre, dans le milieu du trafic de drogue. Voilà, les enfants hommes de main, exactement. À Marseille, les narcotrafiquants recrutent des bébés tueurs. Donc plusieurs articles ce matin, je suis allé vous chercher ceux qui me semblaient le plus clair, mais tous vos journaux en parlent. Ah, vous ne saviez pas ? Ouais, ouais, il y en a 14 ans, je crois. Ouais, incroyable. Voilà, donc reportage de La Croix. Non, c'est dans La Croix, ça ? Ouais, c'est dans La Croix. Alors, toujours dans La Croix, toujours au chapitre des bonnes nouvelles, je vais revenir sur le procès de Mazan. Vous savez, c'est 51 hommes jugés pour le viol d'une femme qui s'appelle Gisèle Pelicot, hein, qui était offerte via Internet à des hommes par son mari. Je pense que vous connaissez l'histoire, qui la droguait, qui la sédatait. Voilà. Alors, je vous ai parlé de ce procès à son ouverture. Je ne vous en parle pas tous les jours, mais il y a une femme héroïque. Oui, tu as raison. Il y a Isa Rakiri, on va en parler. Je ne vous en parle pas tous les jours, mais là, j'ai choisi de vous en parler parce que c'est la une de La Croix. Et La Croix se pose cette question. Alors, est-ce que ces hommes, ce sont des hommes ordinaires, hein? Est-ce que ce sont des monstres? Auquel cas, c'est très rassurant, parce que ce sont des gens, des hommes en marge de la société qui ne reflètent pas le reste de l'humanité masculine, ou est-ce que ce sont des hommes normaux, banalement et horriblement normaux? Ouais, grande question. Vous voyez, en une de La Croix ce matin, j'ai pensé que c'était intéressant de se poser cette question. Viol de Mazan, des accusés à la banalité dérangeante. Voilà. C'est en deux temps, il y a un gros dossier de La Croix et il y a une interview passionnante d'une historienne féministe, professeure à l'université d'Angers, qui est historienne du féminisme et qui explique le retentissement dans notre société de ce procès. Voilà. Et qui dit, je vais directement à l'essentiel, parce que je sais que certains d'entre vous ne pourront pas rester ce matin aussi longtemps, à ce qui me semble essentiel dans cette interview. La Croix demande à cette historienne du féminisme penser que tous les hommes ne sont pas des violeurs en puissance. Est-ce forcément une position anti-féministe ? Voilà. Hein. Le fait de penser que tous les hommes ne sont pas forcément des violeurs en puissance. Et elle répond, cette féministe, elle répond, pas tous des agresseurs, heureusement. Mais elle dit, attention, parler de culture du viol ne veut pas dire que tous les hommes sont des violeurs en puissance. En revanche, nous vivons bien dans une société de la culture du viol, et ça, elle explique très très bien. Mais affirmer qu'il y a une culture du viol, c'est dire que le viol étant l'état actuel de notre société, pensable, possible et le plus souvent impuni. Et c'est deux choses différentes. Et je trouve que c'est bien expliqué par elle. Voilà. Les féministes ne sont pas en train de mettre en accusation tous les hommes, dit-elle. Voilà. En revanche, nier qu'il existe une culture du viol dans notre société me semble relever de l'antiféminisme. Voilà. Je trouvais que c'était assez pertinent, mais on prendra le temps d'échanger là-dessus. Merci Yves Rose Denier pour le 37e mois d'abonnement. Merci Nicole Leco pour le 15e mois. Merci Franfroluche 31 pour le 3e mois. Merci Azara Kiri. Vous êtes pour le 17e mois qui dit première motion de censure, ça se fête. Vous êtes incroyable, merci à tous les quatre. Voilà. Il n'y a pas un petit article sur les petits lapins, les petits chatons qui sont plus mignons par rapport en 2022, par rapport à 2023, enfin tout ça. Non, désolé, j'ai cherché ce matin. Bon, on est bien d'accord, Tress, Chris Tress, c'est bien ce que dit cette historienne d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Comment ça, une culture du viol? Je vais t'expliquer, Nonos. Il faut attendre l'article de Lacroix. C'est un sujet un peu complexe. Hein. Ça peut pas, on n'est pas sur Twitter, là. On n'échange pas des arguments en une ligne. Hein. C'est, l'interview fait une page. On prendra le temps d'expliquer tout ça, t'inquiète. Vous verrez, vous verrez. En vrai, c'est vraiment intéressant. Alors, toujours au chapitre des bonnes nouvelles. Hier, c'était ce triste et dramatique anniversaire. Nous étions, si je ne dis pas de bêtises, le 7 octobre 2024, des attentats du Hamas il y a tout juste un an. Voilà. Moi, j'avais rendez-vous chez un médecin pour un petit garçon hier soir. Et puis, je m'apprête à signer le chèque à la fin de la consultation. Et je dis, la date, c'est bien le 7 octobre. Elle me dit, oui, triste anniversaire. Je dis, ah, triste anniversaire de quoi? J'étais pas du tout dans l'actu. J'avais pas ouvert les journaux de la journée parce que j'étais pris par autre chose. Elle me dit, le 7 octobre quand même. Je dis, ah oui! Et là, je me dis, waouh, un an déjà. Un an déjà. Un an depuis les attentats du Hamas. Et un an, du coup, de guerre à Gaza. Voilà. Et le Monde a fait un énorme dossier dans sa dernière édition. Gaza écrasé par un an de guerre et de chaos. Un an après le début de l'offensive lancée par les Israéliens en représailles aux attaques terroristes du Hamas. Les journaux évoquent les deux ce matin. Du 7 octobre, l'enclave palestinienne n'est plus que ruine et résolution et désolation. Au très lourd bilan humain, près de 42 000 morts, 100 000 blessés, s'ajoute la destruction des infrastructures et un profond traumatisme des survivants. Donc, Le Monde nous propose un dossier sur Bande de Gaza, année zéro. Hein, voilà. Et puis, les quotidiens ce matin parlent aussi de ce dramatique anniversaire, bien sûr, de l'attentat du Hamas. Voilà. J'irai notamment chercher un article dans L'Humanité. Voilà. L'Humanité, pourquoi ce matin? Parce que tous les journaux en parlent ce matin. Parce que L'Humanité vous parle de ces Israéliens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement israélien. Ces Israéliens qui manifestent contre le gouvernement Netanyahou. Ces Israéliens, parfois, qui veulent la paix avec les Palestiniens. Parce que ces Israéliens, ils existent. Et dans le passé, ils ont failli gagner. Il y a une époque que j'ai connue où le processus de paix était sur le point de réussir. Voilà. Et Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste israélien, d'ailleurs. Et c'est l'une des choses qui ont fait capoter le processus de paix. Voilà. Ils sont deux, dit la carotte sévère, qui ne connaît pas son histoire du proche. Voilà. Voilà. Et tiens, j'en ai trouvé un des deux, mon chouchou. Bon, lui, c'est un Français, mais il est juif. C'est Claude Sarcey, il est co-président de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, et il ne dit pas autre chose. Il dit la paix ne sera possible que si on reconnaît enfin un État palestinien. Il faut que les Palestiniens et les Israéliens vivent ensemble. Voilà. Donc, ne pas comprendre qu'une partie des Israéliens, qui à une époque était majoritaire, veut la paix dans la région, c'est ne pas comprendre le Proche-Orient. Alors évidemment, depuis, s'est passé des choses, notamment les attentats du Hamas, qui a un peu retourné la société civile israélienne. Alors on en parlera tout à l'heure, parce que ça s'explique pas en 10 secondes, ça. On n'est pas sur Twitter. Ouais. Merci, Dollar, pour ton 13e mois. Merci, mon gâtre. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est compliqué, Zoram. C'est ça qui est compliqué. Il y a Upcode qui dit, est-ce qu'un attentat justifie 42 000 morts? Qui l'a dit ici? Qui l'a dit ici? Qui a dit qu'un attentat justifie 42 000 morts? Qui l'a dit? Pourquoi tu dis ça? Personne n'a dit ça. Tu l'as dit, toi? C'est peut-être toi qui l'as dit. C'est pas moi, en tout cas. C'est pas L'Humanité et c'est personne dans le chat. Personne ne le dit. Personne de sensé ne peut le dire. À part Netanyahou. Mais cet homme est-il sensé? Hein? Allez. Et puis on terminera cette revue de presse par... Alors c'est pas la pire des nouvelles de ce matin. Ah, Yomgoy qui dit, malheureusement, si, je l'ai entendu, mais pas ici. Pourquoi tu nous le dis à nous alors? Tu vas pas nous rapporter toutes les débileries que les gens peuvent dire, notamment sur Twitter. Va pas nous importer ce niveau de réflexion-là. Sinon, effectivement, tu vas nous rapporter toutes les conneries que tous les gens disent n'importe quand sur n'importe quoi. Hein? Robert au bistrot, ouais, notamment. Ouais. Donc, on va finir sur un truc un peu plus positif. Il y a une sortie d'un film aujourd'hui, voilà, avec un acteur qui s'appelle Abou Sangaré. Prix d'interprétation à Cannes, s'il vous plaît. C'est la une de Libération, mesdames et messieurs. pour son premier rôle dans l'histoire de Souleyman en salle aujourd'hui. C'est un Guinéen de 23 ans, sans papier, hein, il a toujours pas ses papiers d'ailleurs. Voilà. Obérix, tu critiques beaucoup Twitter et tu es bien content de l'utiliser. Bah ouais, puis je lis les journaux aussi, puis je suis pas toujours d'accord avec eux. Ouais. Puis parfois aussi je prends le métro, puis je trouve que c'est dommage que ce soit pas accessible aux handicapés. Ouais. Puis parfois je prends même la route et puis je trouve que les gens se comportent pas bien sur la route. Ouais. Parfois je vais même au café, mais je déplore qu'il y ait de l'alcoolisme. Ouais. Tu veux m'emmener où là en fait? C'est parce que j'utilise Twitter, il faut que je dise que Twitter c'est super? Tu te fous de ma gueule en fait. En fait, tu veux juste qu'on n'ait pas de libre arbitre quoi. Ok. Je marche dans les rues de Paris, il faut que je valide le bilan de la municipalité ever. Comment ça se passe? En fait, je vais à l'hôpital, il faut que je dise que l'hôpital français public est en pleine forme et que notre système de santé est au top. Comment ça? J'y vais assez souvent d'ailleurs. Comment ça se passe? Ok, on peut continuer? Bon, et donc, prix d'interprétation à Cannes pour son premier rôle dans l'histoire de Souleyman, en salle mercredi, le Guinéen de 23 ans. On n'est pas sur France 3 ici, hein. Tu dis une connerie, je réponds. Hein. Ce n'est pas une question pour un champion. Hein. C'est fou ça. Il raconte à Libération son incroyable parcours et ses difficultés pour obtenir sa régularisation. Et bon, bah, c'est Libé qui, au détour de l'histoire de ce jeune homme, hein, qui attend des papiers et puis qui aimerait bien enfin pouvoir bosser dans son entreprise, parce que ce n'est pas le cinéma qui le fait arriver. Lui, il bosse dans une entreprise de mécanique. Ouais, il aimerait juste que son CD puisse être signé, juste avoir des papiers, en fait. Et donc, Libération bah, essaye d'attirer notre attention sur ses sans-papiers qui travaillent, qui ne demandent qu'à s'insérer, avec des entreprises qui ne demandent qu'à les embaucher, mais qui n'arrivent pas à obtenir des papiers. Voilà. Je dis pas que Libération nous parle des sans-papiers, nous parle de ces sans-papiers-là. C'est un coup de projecteur assez intéressant ce matin. Voilà, c'est plutôt une belle histoire en vrai. Voilà, et on finira sur cette note, j'allais dire positive, ouais, positive. Est-ce qu'il est pas beau le... Il est lourd le sommaire ce matin, mais bon, c'est pas inintéressant en vrai. En même temps, on pourrait parler de choses un petit peu plus légères, mais... Pour essayer d'améliorer le monde dans lequel on vit, il faut aussi prendre conscience de ce qui ne va pas. Quoi. Allez, une petite pause où je vous lis parce que c'est mon petit plaisir et puis on attaque cette revue de presse. Sachant que je vous abandonne un petit peu avant midi. Après, j'ai des rendez-vous. Merci, ça rallume. Cherche Odora si quelqu'un en prête un. Bah, papa, t'es pris un petit Covid ou quoi? Merci pour le 32e mois. Qui ne veut pas s'intégrer? Bah, il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer, bébé Kali. Mais ces gens qui ne veulent pas s'intégrer ne doivent pas nous faire penser que tous les autres ne veulent pas s'intégrer. Encore, hein. Ouais, le sommaire, il est chaud, crêpe. The crêpe. Quel odorat de mon sniffer de paix? Tu t'appelles sniffer de paix? Et tu parles d'odorat? En vrai? J'adore. Je kiffe ce pseudo. J'adore. Allez, je vous lis un petit peu. Mais t'as tellement raison. Il y a un Fredos qui dit le manque de nuances. Je pense que notre monde manque de nuances. Et c'est ce que dit Fredos, en fait, il le dit très bien. Le manque de nuances tue la politique. Tue la cohésion sociale, tue les relations internationales. Je vous en supplie, soyez réfléchis et nuancés. Je pense que notre monde manque de nuances. Alors, je n'ai pas vu Dub toi nous quand l'affaire Pididi a éclaté. J'ai pas de revue de presse, donc je n'ai pas lu les articles sur le sujet. Je m'en veux, mais dès que j'en lis, j'y reviendrai. Bonne chance, Actis, on t'envoie la force pour ton permis. Je cherche une hanche en bon état, demande de Sugarizy Pras. Si quelqu'un a une hanche peu servie en bon état, voilà, n'hésite pas à écrire à Sugarizy Pras dans le chat qui est en recherche d'une hanche, s'il vous plaît. Je suis dans la situation où j'aurais aussi souhaité embaucher un jeune homme très volontaire mais sans papier, me dit Me63, à croire que l'État sabote toujours les petits employeurs et les jeunes qui veulent travailler. C'est un des soucis de notre société, ça. Ça tombe bien, j'ai une hanche dans ma poche. En rab, me dit Steve. Bon, bah voilà. Moi, je rapproche les gens qui... T'as besoin d'une hanche? Quelqu'un donne une hanche? Let's go. Un nouveau foie. Ah, il y a PG Créma qui cherche un nouveau foie. Il y a Moots qui répond, j'ai ça dans le congélo. Ok. Ok. C'est les petites annonces ici, en fait. Trop bien. Comment s'appelle les petites, le site des petites annonces? Le Bon Coin. C'est Le Bon Coin. C'est Le Bon Coin ici. Voilà. C'est Le Bon Coin de la santé. Comme disait mon prof de maths de prépa, dit Chicaca, malheureusement, le bon sens est l'une des choses le moins partagées au monde. Tu m'étonnes. Bah, ouais. En tout cas, par le prisme. Par le prisme de certains réseaux sociaux et de certains médias, ouais. Ah, il y a Joe Panda qui fait des pancakes, qui nous fait passer un message. Si vous avez de l'argent en trop, j'ai beaucoup de dettes. Ok. tu prends un ticket resto? Tu prends un ticket resto? Il y a Joe Bull qui cherche des nouveaux amis. Alexandra, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour la mission de demain, c'est adorable. Il y a Fantôme qui cherche 10 000 euros. Il y a Miao Miao qui veut bien échanger une hanche, mais contre une épaule. Non. Donc, on peut réparer ta hanche, mais il faudra donner une épaule. Les hanches ne mentent pas. Shakira, j'ai la ref, Neogus. Hips don't lie. J'ai la ref, j'ai la ref. Les vrais rêves, ça. Shakira, Shakira. Non, 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 non. Excusez-moi. Je cherche l'amour perso, dit Nofa. On le cherche tous, on le cherche tous. Bonjour, 10h, réflexe de la matinée, se faire couler un café. Ok, Cobras. J'ai cru qu'on partait dans une autre direction. Vend une. C'est con, c'est con. J'échange ma vie de prolo contre une vie de nanti, dit Hook. Bah, est-ce qu'il y a un nanti qui voudrait changer sa vie de nanti contre une vie de prolo? Il y a Hook qui est en recherche. Je cherche une revue de presse. Ça, j'ose, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je cherche la Clémence de l'URSSAF, me demande Pied de Paper. Ok. Je cherche un sens à ma vie. Nesquik, on le cherche tous. Tu penses quoi des urbains qui arrivent en zone rurale et qui râlent contre l'odeur des vaches et le bruit des cloches? Bah, faut qu'ils déménagent, Evan. C'est très simple. Ouais. Un problème, une solution. Il fallait rester en ville. Bah, faut pas les connaître non plus. Tu crois que les agriculteurs, ils ont pas suffisamment de difficultés comme ça? T'as les terres. Ah, oh, les vaches, ça sent mauvais. Ben. Le coq, il fait du bruit. Ok. Peut-être, casse-toi, peut-être, en fait. Je sais pas. C'est fou, ça. Hein. Ça existe, hein. Y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup trop de champs à la campagne. Hein? Hein, ça existe, hein. Merci, Pugna, pour le 38e mois. En plus, ça sent pas mauvais les vaches, mais on sait que c'est pas les vaches qui sont mauvais. En vrai, c'est le lisier. Le truc qui sent très mauvais là. C'est le caca qu'on met à fermenter pour dire les choses. Merci aux Trubs pour le 38e mois. Mais c'est quoi ces gens qui soutiennent depuis 38 mois? Merci Ice Rocket pour le 2e mois. Merci Yo-Yo Comic pour le 7e mois. Merci Luxifan Evan pour le Prime. Oh, ça, c'est les agriculteurs, ça qui sub, ça. Je cherche au département du Finistère pour finir la collection de vignettes le Gaulois, Lord Marlou. Mais ça, c'est, on parle de croque-dinde, là. On parle de. J'ai fait deux cartes de France, moi, avec des croque-dinde comme ça, quand j'étais jeune. Ouais. J'avais deux cartes de France quasiment sur mon frigo, avec les magnettes, là. Bon, on y va? Revue de presse? Merci, Sadine Live, pour le 26e mois. Vous êtes incroyable. Fais le coq en anglais. Je sais pas que ça fout de petit tonnerre de Brest. Merci, Yves Cole, pour le prime. Ça va pas, non? Oui, cordon bleu, là. Croque d'Inde, c'est ça. Moi, j'appelle ça comme ça. Cordon bleu, là. Je mettais ça une minute au micro-ondes. Let's go, ça me faisait ma journée. En vrai, on gagne quoi en faisant la carte de France avec les cordons bleus? Ben, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On y va? C'est parti pour la voûte presse ou quoi? Parce que là, hein, ça fait 47 minutes qu'on... Hein, ça, merci André Léo pour le 6e mois. On y va? Let's go? C'est chaud? Vous êtes chaud? Chaud, chaud, chaud? Le cordon bleu, c'est pas le truc qui sort du ventre? Non, c'est le cordon ombilical, ça. C'est autre chose. Ça se mange pas. Enfin, non, je crois pas. Itra, c'est super gentil. Merci, bah presque, pour le 3e mois. Allez, let's go! Bon, alors, des nouvelles de Michel Barnier. Bon, ça va pas très fort. Michel Barnier dans l'ornière. Je ne sais pas si vous visualisez, tu vois, un gars qui, est, hop, qui a pris un petit peu optimiste au niveau du virage. Il finit un petit peu dans le fossé. Bon, vous avez Michel Barnier. Semaine de tous les dangers écrit le Parisien ce matin pour le Premier ministre qui doit présenter ce jeudi, ça c'est important, donc c'est dans deux jours, le budget 2025. Je pense qu'on en reparlera demain. Mais avant, il doit être reçu par les députés macronistes qui lui facilitent pas la tâche, les députés macronistes. À Matignon, on serre les dents. Comme ça. Cette semaine, on va s'adresser aux Français. Ce ne sera pas la période où on va annoncer de bonnes nouvelles, glisse une source proche du Premier ministre. Au menu, Paul Quay, il y a la très périlleuse présentation du projet de loi de finances, qu'on appelle le PLF, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, quoi. Le budget. Hein. En Conseil des ministres, objectif 60 milliards d'euros d'économies. Ah ouais. Voilà. Soit 2% du PIB, c'est beaucoup, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais avec quelle marge de manœuvre et surtout quels appuis à l'Assemblée? Parce que vous savez que la majorité de Michel Barnier n'est quand même pas fofolle. D'ailleurs, il n'y a pas de majorité d'ailleurs. Voilà. Michel Barnier est au pied du mur, quasi certain de devoir passer par un 49-3. Attendons. Et donc soumis au risque de la censure. D'ailleurs, ces grandes masses budgétaires qu'on vient d'évoquer se cachent des mesures explosives, comme le report de 6 mois de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Les retraités vont être très contents, non pas du tout. Hein, le relèvement au-delà de 32,44 € le mégawatt-heure de la taxe sur l'électricité. Voilà. Donc les gens qui consomment de l'électricité en France vont être très contents, non pas du tout. Auxquels notamment les ténors d'Ensemble pour la République, donc les députés macronistes, sont opposés. Ils ne veulent pas qu'on augmente les impôts. Le levier fiscal doit être le dernier levier. On est opposé à la hausse des cotisations sociales, disent les macronistes, notamment Thomas Cazenave, ancien ministre chargé des comptes publics. Dans l'après-midi, ce groupe donc des macronistes, EPR, va tenir une conférence de presse pour présenter ses propres propositions en matière d'économie et de réforme. C'est le truc. Michel Barnier, il n'a pas beaucoup de soutien. Dans les soutiens, il est censé compter sur les députés macronistes. Ok ? Vous suivez un petit peu près ? Un petit peu la droite, un petit peu les macronistes. Ouais, ouais. Et bien les macronistes, ils vont proposer un contre-projet cet après-midi. Vous voyez le niveau du soutien, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Ça va, est-ce que ça finit en 49-3 ? Ça, c'est pas impossible. Mais bon, après, il faut une majorité pour voter ce 49-3 et on va voir un peu plus loin dans la revue de presse que pour ça, il faut que les voix du RN votent la motion de censure avec les voix de la gauche, et ça, c'est pas évident que ça se fasse tout de suite. Ouais. À l'Assemblée nationale, d'ailleurs, Michel Barnier est déjà face à sa première motion de censure, parce qu'il y a une première motion de censure cet après-midi. Sans le soutien du RN, le texte du nouveau Front Populaire, puisque c'est le NFP qui propose cette première motion de censure, n'a quasiment aucune chance. C'est le RN maintenant, du champ, on ne dit plus le FN. C'est les mêmes, hein. Mais c'est le RN. De renverser le gouvernement mardi après-midi. Ce mardi après-midi, le Premier ministre va devoir se défendre contre le nouveau Front Populaire, dont les 192 députés ont déposé la première motion de censure de son mandat. Texte qui, à défaut de pouvoir renverser le gouvernement, vise à quoi ? À 1. Sanctionner la décision d'Emmanuel Macron de ne pas nommer une personnalité de gauche à Matignon, hein, notamment Lucie Castex, candidate désignée par la gauche après la législative. Oui, 149.3, c'est autre chose, là, c'est une motion de censure. Le 49.3, quand le gouvernement utilise le 49.3 pour faire passer un texte, il débloque automatiquement un vote à l'Assemblée pour valider ou pas. Voilà. Et un vote qui peut faire tomber le gouvernement. Mais les députés peuvent, indépendamment, déposer des motions de censure en dehors d'un 49.3. Hein, c'est deux choses différentes. Donc le premier motif, c'est le fait que Macron n'a pas nommé un ou une ministre de gauche à Matignon. Et puis autre motif, les orientations politiques du gouvernement, notamment le refus par l'exécutif d'abroger la réforme des retraites, puisqu'il n'en est pas question aujourd'hui, et la volonté affichée de réaliser plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies budgétaires. Un texte, donc une motion de censure, pas de souci, calme, déposée par l'NFP, dont les chances de réussite sont quasi nulles. Hein, bien sûr qu'on va, on va en parler beaucoup même aux XL du Proche-Orient. Car si Michel Barnier ne possède qu'une très courte majorité relative à l'Assemblée, donc les Républicains, enfin, pas tous, enfin, et les Macronistes, seule une alliance du NFP, parce qu'il faut une majorité de députés pour voter une motion de censure, seule une alliance du NFP, donc la gauche, et du RN peut menacer la coalition gouvernementale. Or, Marine Le Pen a d'ores et déjà fait savoir que ses troupes épargneraient pour l'instant le Premier ministre. Qu'est-ce que tu racontes, Cyril ? Non, non. Les macronistes plus la droite, ça fait pas 47. Oh, oh. Retourne voir le résultat des législatives. Avant que la porte-parole du groupe RN, Laure Lavalette, vous connaissez pas, mette fin au suspense, elle a déclaré « La situation de la France est tellement chaotique que voter cette motion de censure, a priori, censurer ce gouvernement n'aurait pas de sens. » Ça, c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup. Il n'y a pas tant de chances que ça, qu'une motion de censure soit votée dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'en fait, c'est tellement de bordel qu'il n'est pas sûr que sorte quelque chose de, qui résolve l'équation politique après, quoi. Voilà. Ouais. Mais j'ai pas parlé de majorité relative LR, Cyril, c'est pour ça que je t'ai repris. Je vais à la fin de l'article. Le Premier ministre espère faire passer son projet de budget idéalement 149.3. Voilà, il va essayer. C'est pour ça que quand le Parisien débute son article en disant « c'est sûr, il y aura 49.3 », le Figaro dit « il va essayer de le faire sans ». Voilà. C'est pour ça que le message de Michel Barnier reste volontairement ferme, mais ouvert. Ferme sur la nécessité de trouver un plan à 60 milliards dont 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausse d'impôts, voilà. Mais ouvert sur le travail parlementaire qui devra s'engager. En gros, voilà, il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on augmente les impôts. Après, la manière dont on va le faire, Michel Barnier dit, je suis ouvert, on peut bouger des trucs. Voilà. Donc, il y a un monde où il arrive à le faire passer son 49.3, à voir, ou pas, on verra bien. Voilà, voilà pour Barnier. Je vous lis, ça c'est je sais plus comment il s'appelle. C'est un autre article, ça. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous le lis pas. C'est comment il s'appelle la dame là. À droite, là, comment il s'appelle déjà. Qui a enlevé son nom là, qui a changé son. Comment s'appelle la dame là. Je suis vieux moi. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Oui, elle est à gauche de l'image, mais. Marion. Voilà, je crois qu'elle veut, je sais pas quoi, elle veut former un nouveau parti, je sais pas quoi. Mais sur le gouvernement, sur le budget, une remarque sur le projet de budget. Quelqu'un a une solution pour sauver la France. Levez la main ceux qui ont une solution pour sauver la France, s'il vous plaît. Non, c'était pas Maïté, Jostache, c'était Marion Maréchal. Pourquoi ne pas la lire? Ça reste un événement politique parmi d'autres, parce qu'en fait, chaque journal fait à peu près une cinquantaine de pages. J'en lis à peu près une dizaine tous les matins. Et donc ma vue de presse pourrait durer à peu près 3 ou 4 jours si je lisais tous les articles. D'autres questions ? Désolé, j'ai pas la solution pour sauver la France. Ah putain, faites pas d'efforts. Hein. Supprimer le SNU, faire une vraie réforme des retraites et passer à la capitalisation. Ok, Clamakin is back, ok. Il faut envahir Monaco. Oh, merci Kid Guren. Je propose de taxer les streamers pour sauver la France. Ok, Bandef de Bob Fantôme. Voilà, bam, c'est fait. Ok. Supprimer 99% des niches fiscales, dit complotriste. Ok. T'élire président, ça va être pire avec moi, président. Taxer les ultra riches, dit Ron. Donc on veut encore taper sur les streamers. Merci le PAMI pour le deuxième mois. Je comprends pas pourquoi on parle toujours d'économie. Il y a de moins en moins d'entrées. Alors. Stix, le président Macron, a plutôt baissé les prélèvements obligatoires, les impôts, hein, que ce soit pour les particuliers ou pour les sociétés. Si tu t'intéresses à ça, tu vas vite le constater. Et donc moins d'entrées, oui, puis des dépenses, oui, des dépenses toujours plus importantes, notamment avec le coût de notre système social et de santé, et par ailleurs les dépenses liées à la période du Covid. Donc oui, ça va pas très fort, quoi. Il faut vendre l'Alsace et la Lorraine, dit Hook. Bon, moi, je m'en fous, je suis breton. Merci. Faut annexer l'Italie, c'est trop bon les pâtes, dit Pilo. Allez, c'est parti, la guerre, quoi. Zerator, ministre des Finances. Merci, gros bras du 31, à l'instant, pour le 25e mois. proposer des frites à la cantine tous les jours, ça me paraît un bon début pour sauver la France, dit Waltuki. Ok. T'as heureusement... Eh, l'actualité est catastrophique, mais heureusement, heureusement que vous êtes là pour mettre un peu d'humour et de sourire, parce qu'en vrai, ça serait une catastrophe, quoi. Les ultra-riches vont juste partir de la France si on les tâche. Bah tout. C'est-à-dire si on... mais personne ne veut mettre des tâches sur les ultra-riches. Tain, le projet notamment de la gauche, c'est pas de balancer la sauce tomate sur les costumes des ultra-riches. Pourquoi tu dis les ultra-riches vont juste partir de la France si on les tâche? Mais personne ne veut les tâcher. Ah, les taxes! Si on les taxe, tu veux dire? Ah oui. Non, parce que je voyais pas le rapport entre la tâche et le... Ok. Mmh. Légaliser le cannabis, dit Exutoire. Et puis le taxer, du coup. Ouais. Non, il faut garder l'Alsace, mais la Lorraine, on n'en tirera pas grand-chose, dit El Keleb. Oh, les règlements de compte, les règlements de compte. Oh, la légalisation du cannabis, elle est pas mal. On fait travailler les enfants. Merci, Pilo, pour cette proposition. Pfff. Les streamers, rendez l'argent, dit Asvem. Allez, Bandev, bam. C'est parti. On paye plus rien en retraité. Ah bah ça va, Stormwar, cette espèce de jeune. Ok, on laisse mourir de faim les vieux. Ok. Et paf dans ta gueule la tomate. Ok, finalement, cette proposition de tâcher les riches a l'air de séduire un petit peu le chat. Tâchons les riches. C'est un bon club, ce sera dans mon programme présidentiel. Monsieur Étienne, donc à la surprise générale, vous venez d'annoncer votre candidature à la présidentielle. Une campagne que vous allez nommer, que vous allez mener essentiellement par des clips sur TikTok, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Je ne dirai pas sur les plateaux télé. On va tout faire sur Twitch et sur TikTok. Ok, par exemple, pour les riches, qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte les tâcher. Les taxer. Non, les tâcher. Tâchons les riches. Hein? Moi, je la vois, la campagne, là, ça va être quelque chose. Hein. Merci, Bubs86 pour le Prime. Merci, Kempachi. Les tâcher, mais à quelle hauteur? Alors ça, c'est un débat. Ça, c'est un débat. À quelle hauteur? Est-ce qu'on tâche les chaussures? Est-ce qu'on tâche jusqu'aux genoux? Est-ce qu'on tâche jusqu'à la ceinture? Est-ce qu'on tâche la veste? Merci, le Show TV pour le Prime. C'est à peu près... On essaie de faire tous les matins Clémouze, mais bon, ça dépend, quoi. Merci, Novaxis, 28e mois. Est-ce qu'on t'a déjà dit que ton pseudo faisait penser à un laboratoire pharmaceutique? Je crois que je te l'ai dit à chaque fois. Hein. Bon, voilà, au niveau de la politique, on va suivre ce vote sur le budget dans 2 jours. Au chapitre, toujours des bonnes nouvelles. Pas du tout, c'est une catastrophe ce matin. Le fait qu'à Marseille, on ait des apprentis tueurs, je ne sais pas comment dire, des bébés tueurs, dit Lacroix, recrutés par des narcotrafiquants. Ce n'est pas un fantasme, c'est un truc qui, hélas, existe. La semaine dernière, vous êtes peut-être au courant, donc c'est dans Lacroix, page 8, 2 adolescents de 14 et 15 ans ont été impliqués dans 2 homicides reliés au narcotrafic marseillais. Alors que les 2 faits divers ont saisi d'effroi la cité phocéenne, le procureur de Marseille alertait dès le 6 octobre sur l'ultra-rajeunissement et la sauvagerie inédite de la criminalité locale. En l'espace de 48 heures, la guerre des gangs a de nouveau frappé froidement Marseille et rappelé qu'elle concernait désormais de très jeunes hommes. Mercredi 2 octobre, dans la nuit, un mineur de 15 ans a été lardé de 50 coups de couteau, puis brûlé vif. Oui, des ados manipulés pour tuer. Cyril, tu as complètement raison. Ça s'explique d'ailleurs un spécialiste à la fin de l'article. Tu as complètement raison. Donc, un mineur de 15 ans a été lardé de 50 coups de couteau, puis brûlé vif, a précisé le procureur de la République de Marseille. Il venait donc, ce jeune homme, d'être recruté par un détenu. Hein, parce que le mec, en fait, commandite des assassinats depuis sa prison, en France, hein. Bien ancré dans le narcotrafic, hein, qu'il avait chargé à distance de déclencher un incendie dans le bâtiment d'une cité rivale en échange d'une enveloppe de 2000 euros. L'ado n'est jamais arrivé à ses fins. Il a été repéré par une bande de personnes en faction qui l'ont questionné, l'ont fouillé, avant de le tuer dans une scène du sauvagerie, sinon inédite, rare, d'après le déroulé du procureur. 2 jours plus tard, vendredi 4 octobre, le mode opératoire s'est répété. Le même commanditaire, le même mec en prison, faisait de nouveau appel à un adolescent pour effectuer un second contrat visant à venger le premier mineur. Compte cette fois une récompense de 50 000 euros. Voilà. Cette fois, le jeune tueur à gage est âgé de 14 ans. Il ne va pas réussir à mener à bien sa mission, Mais pourquoi? Parce qu'il a été interpellé après avoir tué un chauffeur de taxi. Hein, un chauffeur de VTC, sans histoire, qui avait refusé de le déposer dans la cité rivale où il devait effectuer son contrat. En gros, le chauffeur de taxi a compris que le gamin lui demandait de l'emmener faire un truc super chelou. Il a dit, non, j'y vais pas. Et je crois qu'il lui a tiré une balle dans la tête. Voilà. Comment, s'interroge la Croix ce matin, comment de si jeunes garçons ont-ils pu se retrouver au cœur de crimes orchestrés par des bandes rivales qui se disputent l'hégémonie du trafic de drogue à Marseille, puisque c'est ça qui se passe. Oui, il était père de famille, en plus, le chauffeur. Dans son rapport publié en mai dernier, la commission sénatoriale chargée d'enquêter sur l'état du narcotrafic en France alertait déjà sur l'émergence d'équipes de tueurs, parfois très jeunes. Le phénomène de rajeunissement qui est récent, expliquent les spécialistes du sujet, ça remonte à 2-3 ans maximum, explique Mathias Perrin, assistant social à la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a un journaliste d'investigation qui s'appelle Philippe Pujol qui enquête depuis des années sur les trafics de drogue dans la cité phocéenne et qui parle de bébés tueurs. Dans son dernier livre, il revient sur la trajectoire de 4 jeunes Marseillais devenus des bourreaux du trafic. Alors, qui sont ces jeunes et comment peuvent-ils en arriver là? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Ce sont des jeunes très vulnérables, souvent sans structure familiale, qui sont exploités par les réseaux. Ceci crée une forme de dépendance, bien souvent en leur imposant des dettes. Ouais. Les trafiquants repèrent ensuite chez une poignée de ces jeunes une appétence pour la violence qu'ils vont encourager, qu'ils vont aiguiser. La première fois, on leur fait casser la gueule d'un autre jeune, puis on les pousse à se scarifier un rival. Ces jeunes sont bien souvent bourrés à la cocaïne, valorisés pour leur violence, explique le journaliste. Les trafiquants font miroiter des sommes importantes, créent du rêve à des gamins qui sont en rupture de la société, de leur famille. Voilà, comme le dit Nierst, ils sont malins, ils vont vers des jeunes sans cadre, sans famille stable, exactement. Voilà, pour les exploiter en vue d'un passage à l'acte. Voilà. Voilà sur ce phénomène. L'article est dans La Croix, page 8. On ne peut pas bloquer les portables dans les cellules, c'est dit live, je t'avoue que c'est une question que je me pose aussi. Ouais. Je vous lis. Hein. On me dit qu'il y a un très bon podcast sur France Culture sur le sujet, me dit Seven Way. Ah, il y a des brouilleurs d'ondes dans les prisons, mais ils arrivent à contourner, me dit Waltuki, à propos des portables. D'accord. Ouais. Je vous lis. Merci Mister Valou, merci à Sedai, merci à tous les deux. Ouais. Faut qu'on arrête de déménager dans la cour, elles seront cassées l'immeuble d'à côté là. Ah bah c'est lui en fait. Il y a Chicho Chiro qui dit un journaliste pris Albert Londres a fait une série de bouquins là-dessus dont le dernier s'appelle Cramé. Bah c'est le journaliste dont je viens de vous parler en fait. Son dernier livre s'appelle effectivement Cramé. Bonne nuit Sugarizipra. Bonne journée pardon. Merci PH pour le prime. Est-ce que pour toi, c'est une conséquence de notre politique de répression de la drogue en France, Mathia? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je pense qu'effectivement, notre politique de répression, notamment de lutte contre le trafic de cannabis, a échoué en France. Et donc, il serait peut-être temps d'essayer autre chose, de prendre exemple sur les pays qui ont dépénalisé ou légalisé le cannabis notamment, pour sortir cette économie de là où elle est, de la taxer d'ailleurs, ça fera rentrer des sous. Nos voisins allemands sont en train de vivre cette expérimentation. Pourquoi ne pas la lancer effectivement chez nous aussi, quoi. Ça se passe bien en Allemagne? Ben moi, j'attends avec impatience, justement. C'est une très bonne question de Nzolino. Est-ce que ça se passe bien en Allemagne, cette expérimentation pour l'instant de la dépénalisation du cannabis, ou de la légalisation même d'ailleurs, parce que c'est deux concepts différents. Moi, j'attends avec impatience des articles qui vont tomber sur un premier bilan après quelques mois, voir ce qui se passe chez nos voisins allemands, quoi. Ouais. Bon, on en parle régulièrement sur ce sujet. C'est pas ce matin qu'on va le régler, mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un des maux de notre société, quoi. Alors, toujours dans l'actualité souriante, rieuse de ce matin, ce drame, cette horreur du procès de Mazan, hein, dont je vous ai parlé à l'ouverture. Les journaux en parlent tous les jours parce que c'est un procès qui secoue la société française. Hein. C'est le procès de ces 51 hommes jugé pour le viol d'une femme, Gisèle Pellico, qui était donc offerte à des hommes recrutés sur Internet, alors qu'elle était endormie par des médicaments, qu'elle était sédatée. Gros dossier dans La Croix ce matin, donc je vous en reparle ce matin. Merci Pasteur QH pour le prime. Qui se demande si quel est le profil de ces accusés. Est-ce que ce sont des hommes ordinaires ou est-ce que ce sont des monstres? Je spoil, ce sont des hommes ordinaires, dans leur parcours en tout cas. Voilà. On va essayer de lire cet article pour comprendre un petit peu où La Croix veut nous emmener. Viol de Mazan, des accusés à la banalité dérangeante. On aimerait que ce soit des monstres. Il y a Despa qui écrit dans le chat, ce sont des monstres. On aimerait que ce soit des monstres. Bien sûr, mais ce ne sont pas des monstres. Bah si, ce sont des monstres. Mais d'une banalité dérangeante. Voilà. Irrépérable. Hein. Vie au quotidien, bon père de famille, bonne amie, gentil mari, ce sont les deux, exactement, Scipio, on est d'accord. Ce sont des monstres ordinaires, vous avez raison. Voilà. La banalité du mal, exactement, vous avez raison. Voilà. Mais on va lire cet article qui est assez bien écrit. 51 hommes sont jugés à Avignon du 2 septembre au 20 décembre, c'est un procès fleuve, hein. Devant la cour criminelle du Vaucluse pour le viol de Gisèle Pellico. La plupart de ces hommes âgés de 26 à 74 ans menaient une vie ordinaire. Pour l'historienne Christine Bard, on va lire l'interview qui est vachement bien faite. Ce retentissement de ce procès est le signe d'une prise de conscience collective. De quoi ? On va en parler. Insérés socialement, ces hommes âgés de 26 à 74 ans menaient une vie ordinaire sans démêler avec la justice, hein, pour la plupart. Ce procès est-il hors norme, s'interroge La Croix, ou au contraire très ordinaire en raison de l'effrayante récurrence du crime qu'on y juge, le viol. Est-ce le procès, parce que certains se posent la question, est-ce le procès de la masculinité toxique, d'une manière générale? Est-ce que ces accusés sont représentatifs de tous les hommes, hein? Autant de questions désormais au cœur d'une audience dont l'ampleur médiatique et sociétale n'aurait pas été la même sans la décision de la victime, Gisèle Pellico, de refuser le huis clos des débats et donc que ces débats deviennent publics. Cette femme de 71 ans qui souhaite que tout soit dit à propos de ce que lui ont fait subir son mari et tous ses hommes durant 10 ans, midi et soir. On va lui rendre hommage d'ailleurs à son courage, à cette dame. Midi et soir, elle sort du palais de justice sous les applaudissements, hein, d'une trentaine de femmes et d'hommes venus assister au procès dans une salle de retransmission annexe. Tous les jours, elle reçoit des lettres de soutien du monde entier. Voilà. Qui sont ces hommes de 26 à 74 ans qui sont donc jugés à Avignon ? Il y a Joe qui me dit « Tu peux me call ?» Je lui dis « Ben, je suis en revue de presse. Une urgence ?» Point d'interrogation. Joe, qui connaît Twitch par cœur quand même, me demande s'il peut me call. Alors que il connaît. Hein, si quelqu'un connaît Twitch, c'est Joe. Continuons. Il va me dire si c'est urgent, en quel cas je le rappellerai rapide. Donc, qui sont ces hommes ? Des messieurs, tout le monde, au regard de leur profession en tout cas. Ah, il répond. Bon, je l'appelle une minute, ok, bougez pas. Ah oui, il est en train de nous booster un petit PC là. C'est hyper important. Je l'appelle. Hop, je coupe le micro. Ouais, pour 2 secondes. Une minute, il a dit, ça va être très rapide. Désolé. Bon, c'est important parce que mon PC du quotidien, celui avec lequel je stream ce matin, il montre un petit peu des signes de faiblesse en termes de capacité mémoire, de carte graphique, de carte d'acquisition. Il n'a pas de carte d'acquisition celui-là. Et maintenant, j'ai envie de brancher des consoles de jeux sur le PC pour pouvoir streamer avec une PS5, avec une Switch quand je fais des streams avec Malo. C'est pas possible avec mon PC actuel, donc j'ai pris un autre de mes PC, on est en train de le booster. Joe était chez le customiseur de PC là, et on discutait de ce qu'on mettait dedans ou pas. Donc on a mis une petite carte graphique qui va bien, la carte d'acquise, bon, ça s'est fait, on lui a mis du Tera, en veux-tu, en voilà, au niveau du disque dur, voilà, il va faire tourner tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'était important. Et merci à Joe de s'occuper de ça pour moi. Merci, Shinkin. Voilà. Par contre, il faut que je taffe un peu là. non, le PC actuel, il était full. C'était pas le PC avec lequel je stream. Là, on peut pas tellement l'ouvrir. On peut pas. Il y a plus de place pour. Tu peux. T'as même pas la place pour une carte d'acquise. Quelqu'un me dit, je suis informaticien, tu pouvais pas modifier ton PC actuel. En fait, le PC dont Joe parle, c'est mon PC. C'est mon PC de stream d'origine. Après, on l'a basculé sur la régie ici, parce qu'il était justement assez puissant pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Et moi, du coup, je stream avec un PC qui est moins puissant, mais du coup, dans lequel tu peux même pas mettre une carte d'acquisition interne, donc beaucoup plus fiable et performante qu'une carte d'acquisition externe, sur laquelle je mets ma tablette, par exemple. Et donc, du coup, il fallait... Donc, j'ai repris mon ancien PC et je suis en train de le booster. OK. Voilà, ça, vous avez toute l'info. Bon. Qui sont ces hommes ? On y retourne. Des messieurs, tout le monde, regardez leur profession. Un électricien, deux vendeurs, un journaliste, deux chauffeurs routiers, un menuisier poseur, un plaquiste, un militaire, un ancien chasseur alpin, un pompier, un chef de chantier, un gardien de prison, un agent d'entretien, quelques retraités et plusieurs personnes sans emploi. Ce qui frappe surtout, c'est l'absence de ligne directrice permettant de les mettre dans une case. Il n'y a pas un truc qui les rassemble. Hein. L'alcool, par exemple, alors certains ont dit « ouais, j'avais bu, j'étais bourré, ouais, je bois voilà. ». Au total, une dizaine d'accusés ont déclaré lors de l'instruction une dépendance à l'alcool, mais dans leur immense majorité, c'est en étant sobre que ces hommes ont accusé, ont amusé de leurs victimes. Quelques accusés ont eu aussi une enfance douloureuse avec d'importantes carences affectives et des violences familiales. 13, si on tente de les décompter, ont dit avoir subi des abus sexuels dans leur enfance, mais impossible de trouver non plus de ce côté-là, pardon. Ah, plus de café. Une clé qui expliquerait à elle seule le passage à l'acte. Car dans le dossier, on découvre aussi une pléthore d'accusés qui ont grandi dans une famille aimante et soudée. Même constat pour la vie sentimentale des mis en cause. Une poignée d'entre eux, 6, effectivement, ont été condamnés pour des violences conjugales, mais 6, c'est que dalle hein, sur 51. Certains ont été décrits durant l'enquête comme des hommes pouvant être impulsifs ou jaloux. Mais de nombreuses épouses ont aussi décrit devant le tribunal, devant le juge, un mari respectueux, doux, calme et aidant, romantique, travailleur, apprécié de tous. Voilà. Mais d'après leur entourage, tous les mis en cause dans les viols de Mazan ne présentaient pas d'addiction au sexe et ne consultaient pas compulsivement de la pornographie. En fait, le seul véritable point commun de tous les accusés est le fait qu'ils fréquentaient le site de rencontre qui a été fermé par la justice depuis, coco.fr. Certains étaient en quête d'aventure extra-conjugale, d'autres de libertinage. D'ailleurs, c'est un axe de défense qui est revenu beaucoup chez les accusés. Hein. De nombreux accusés ont dit qu'ils pensaient avoir rendez-vous pour un jeu libertin. Avec l'accord de madame, sur place, j'ai pensé qu'elle faisait semblant de dormir, qu'elle allait se réveiller, qu'elle allait participer avec nous, dit l'un d'eux, qui a maintenu sa version, même après avoir visionné la vidéo, qui rendait son argumentaire totalement inaudible, puisqu'on voyait bien que le mec disait n'importe quoi. Ces vidéos font s'écrouler la thèse d'un viol par accident, puisque la victime, la dame, a tenu à la diffusion des vidéos et tout le monde s'est rendu compte que les vidéos montraient bien que les hommes savaient très bien ce qui se passait. Ces vidéos font s'écrouler la thèse d'un viol par accident, par inattention ou imprudence. Ce qu'on voit, ce sont des viols par opportunité, explique l'un des deux avocats de Gisèle Pellicot. Beaucoup d'accusés affirment aujourd'hui avoir agi sans avoir l'intention de commettre un viol. Même s'ils concèdent qu'à aucun moment Gisèle Pellicot ne leur a donné son consentement. Mais son mari était là ! On dit beaucoup. Hein. Se défend-il en affirmant n'avoir pas imaginé que Dominique Pellicot puisse agir sans l'accord de son épouse ? Ah bah oui, bien sûr. Le consentement du mari, le sésame vers le passage à l'acte. Hein. Le consentement d'un homme donné à d'autres hommes. Vous voyez un petit peu le problème dans le raisonnement. Dans ce procès, il y a aussi des hommes qui confient leurs regrets au final. Hein, leur honte et qui disent aujourd'hui à Gisèle Pellicot une empathie qu'ils n'avaient pas exprimée lors des entretiens avec la psychiatre en 2021. Voilà. Quel est le point commun entre tous ces hommes ? Aucun. Certains ont des petits problèmes d'alcool, mais ils ne sont pas très nombreux. Certains ont eu des enfances compliquées, mais ils ne sont pas très nombreux. En fait, il n'y a pas de... Voilà. Y a pas de profil. Ah si, bien sûr, ce sont des hommes. Oui, bah oui bien sûr, ouais. 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 Vous venez... Peut-être enfoncer une petite porte ouverte, là, non ? Justement, on va en parler de ça, de cette culture du viol, parce que c'est une expression qui a un peu surpris certains. De dire, ah, culture du viol, ça veut dire que la société encouragerait au viol ? Non, mais qu'elle le permet. Que certaines valeurs portées par notre société le permet. On va en parler. Ponzidiona essaie de sauver la gente masculine ou demande, il n'y a pas une seule femme parmi les accusés ? Non, Ponzidiona, il n'y a pas une seule femme parmi les accusés. J'ai l'impression que ça arrangerait bien certains. Non, il n'y a pas une seule femme parmi les accusés. Voilà. Voilà. On va en parler de cette culture du viol dans un instant, c'est une notion qui est compliquée mais qui mérite d'être expliquée. Merci Shinkin pour le 11e mois. C'est une interview, toujours dans la Croix, que je trouve passionnante, de Christine Barck, une historienne du féminisme. Voilà. Elle est professeure à l'Université d'Angers, c'est une historienne, et elle explique le retentissement dans la société de ce procès. Pourquoi, finalement, pourquoi on en parle autant ? Pourquoi le procès des viols de Mazan a-t-il autant de résonance dans la société ? Première question de la Croix. Réponse de l'historienne. Il interpelle ce procès la société dans un contexte favorable, puisque nous sommes toujours dans la phase hashtag MeToo du féminisme. Les violences sexuelles ont désormais conquis leur place dans le débat public, et ça, c'est une bonne chose. Le moment paraît propice à une prise de conscience collective. On met en avant, dit la Croix, la banalité du profil des accusés. Mais qu'est-ce qui permet de dire qu'ils sont monsieur tout le monde ? Elle répond, ils sont presque monsieur tout le monde. Merci, Drémia. Lorsqu'on voit la diversité des profils, on a un échantillon qui est assez représentatif, au moins sur le plan socio-professionnel, de la population masculine, y compris dans la diversité des âges. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Le souligner, c'est une façon de s'opposer au mythe du violeur qui est depuis des siècles présenté comme un étranger à la communauté. Hein. L'homme dans le noir, la nuit, hein, dans une rue déserte, alors qu'en fait l'immense majorité des viols est commise par des proches. Ça, vous le savez. Hein. Donc un monstre avec des caractéristiques spécifiques. Les accusés de ce procès n'ont pas ce profil. En revanche, ils ont en partage, et c'est peut-être ça qui les lie, et c'est là où on va progresser un petit peu sur le sujet. Merci Virgo pour le prime. En partage, une culture du viol. Et on va s'arrêter un petit peu sur ce concept. Que recouvre cette expression, demande la Croix, très utilisée depuis le début de ce procès ? Alors, la culture du viol, c'est un concept qui a été fondé, forgé par les féministes aux États-Unis dans les années 70, qui est utilisé en France à partir des années 2000, pour dire que le viol... Alors, Matt Delou, reste avec nous. Il y a Matt qui dit trop de... Oh, Matt, restez. Quelle que soit nos sensibilités là-dessus, quel que soit notre avancement dans un parcours d'une prise de conscience sur ces sujets, restez ouverts, essayez de comprendre, essayez de, quel que soit votre âge, la génération dont vous faites partie, essayez de vous ouvrir aux arguments des autres, pas forcément en validant les plus extrémistes de chaque camp, mais même si vous n'êtes pas convaincu, d'essayer de comprendre le raisonnement des arguments. Voilà. Parce que c'est pas parce que une idée ou un concept, comme ici la culture du viol, heurte vos valeurs d'aujourd'hui, que vous devez quitter le stream comme je viens de le voir, en fait. On est tous très différents ici, on pense tous des choses différentes, mais on est ensemble en train d'essayer d'y réfléchir, c'est ça qu'on essaie de faire. Quitter le stream quand vous n'êtes pas d'accord avec un truc, non, essayez de faire cet effort. Alors, je continue, la culture du viol... Donc un concept utilisé en France à partir des années 2000 pour dire quoi ? Que le viol. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti avant même qu'on définisse le truc. C'est dommage. Que le viol est un phénomène culturel et non naturel, et que des éléments de valorisation du viol sont présents dans notre culture. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. L'exposition « Posséder et détruire stratégie sexuelle dans l'art d'Occident » présentée au Louvre, en 2000, par exemple, montrait par exemple la fréquence des scènes de viol dans la peinture occidentale. Et en vrai, c'est vrai que moi qui aime bien traîner dans les musées, vous avez plein de tableaux en fait, qui valorisent en fait, cette espèce de puissance masculine qui peut se permettre à un moment d'aller forcer une représentante du sexe féminin à un acte sexuel. Et si vous réfléchissez un peu, si vous fréquentez un peu les musées, vous allez vous rendre compte que des peintures qui valorisent cette puissance masculine dans ce genre de comment le qualifier, mais c'est de l'art, mais et alors tu tords, c'est le reflet d'une société, l'art c'est toujours le reflet d'une société à un moment donné, c'est de l'art, et alors on a le droit de juger l'art aussi en tant que représentation d'une société. Quelle peinture jamais vue, moi? Tu vas pas dans les musées, faute grave. La mythologie, par exemple. Les mythologies grecques et romaines sont remplies de dieux qui ne sont que des représentations masculines fantasmées, qui à un moment se permettent de faire ce qu'il semble bon de faire avec des humaines. Hein, Zeus, ce gros queutard, exactement. Et après, les peintres classiques notamment se sont délectés à reproduire ce genre de scène. Vous avez jamais au musée ou quoi? Non, vous voyez pas de... Du coup, il est où le problème? Je comprends pas. Bah, parce que l'art n'est que le reflet de la société, en fait, aux Ixelles. Voilà. On continue. Donc, fréquence des scènes de viol dans la peinture occidentale, et cela est vrai aussi dans la culture populaire, sans oublier bien sûr la pornographie, dont l'essentiel est un exemple de culture du viol, avec une violence omniprésente à l'égard des femmes. Qui consomme un minimum de porno ici, sait que, là aussi, on a un problème de la représentation de l'image de la femme dans le porno. Alors, si vous ne vous en rendez pas compte, c'est qu'il y a un souci, quoi. Là on n'est plus chez les Grecs, et on n'est plus au Louvre. Ah ben, il y a un dica qui est à la recherche du contre-argument qui dit « Ah ben non, il y a du porn éthique. » Bien sûr. Alors ok. Alors si, donne-moi maintenant la proportion du porno éthique par rapport au porno qui est consommé dans le monde à un instant T. Ben, on est quoi, sur du 0,1%? Tu vas pas me dire que le porno éthique doit cacher... Ouais, 1%, vous êtes gentil, hein, Quentin. Ne me dis pas que les tentatives de porno éthique doivent cacher que l'immense majorité de ce qui est produit en matière de pornographie pose un problème quant à la représentation de la femme. On n'est pas sur du 1%. On est sur du 0,1%, je pense. Ouais. On est bien d'accord. Donc, on a une culture du viol qui met en avant une violence omniprésente à l'égard des femmes. Dans l'art, on vient de l'évoquer, mais aussi dans le porno, par exemple. Et le porno, c'est un petit peu consommé quand même au quotidien, non? Dans un pays comme la France, je vais pas vous demander, on va pas faire un sondage, je vais pas vous demander de le lever la main, mais bon. Qu'est-ce qui explique donc ce phénomène culturel? Réponse de cette historienne. La domination masculine est une organisation sociale, créant de l'inégalité, mais aussi des normes de genre. Dans la conception traditionnelle du genre, la virilité a deux faces, protectrice et prédatrice. Les hommes seraient mus par des pulsions sexuelles, parfois irrépressibles, tandis que les femmes seraient, dans cette représentation sociale, des êtres essentiellement passifs, qui diraient non par fausse pudeur, alors qu'en fait, elles voudraient dire oui, cette passivité... N'est-ce pas d'ailleurs ce qui a été recherché avec la sédation chimique qui est au cœur de ce procès? Pensez, relance Lacroix, que tous les hommes ne sont pas des violeurs en puissance. Est-ce forcément une position anti-féministe? Elle répond non, l'historienne. Pas tous des agresseurs, heureusement, les hommes, dit-elle. Parler de culture de viol ne veut pas dire que tous les hommes sont des violeurs en puissance, puisque certains semblent le prendre personnellement dans le chat. Mais que le viol, la culture du viol, c'est ça, que le viol est, en l'état actuel de notre société, pensable, possible et le plus souvent impuni. Et quand vous penchez un petit peu sur les statistiques des plaintes pour viol et, quand il y a plainte, des conséquences judiciaires de cette plainte, vous savez que cette phrase est vraie. Le viol est, en l'état actuel de notre société, pensable, possible et le plus souvent impuni. Et vous savez que c'est vrai. Merci Virgo. Les féministes, explique cette historienne, ne sont pas en train de mettre en accusation tous les hommes. En revanche, nier qu'il existe une culture du viol me semble relever, dit-elle, de l'anti-féminisme. Dernière question de Lacroix à cette historienne. Est-ce que le procès de Mazan marquera l'histoire du féminisme? Elle dit oui, parce que la victime tient un rôle central. Gisèle Pellicot en impose par son courage époustouflant. Voilà. Le deuxième élément marquant, c'est l'intensité de la médiatisation du procès. Tout cela peut donner l'espoir de dispositifs plus efficaces de prévention et de répression du viol à l'avenir, dans un pays comme la France. Le bémol, bien sûr, ce sont les risques de la mémoire courte, l'oubli de ce moment important, voire un basculement dans un backlash anti-MeToo, anti-féministe, qui s'exprime déjà dans les médias, car le patriarcat est un système qui se défend. Voilà. Bon, sujet compliqué, sujet sensible, sujet qui provoque bien des réactions. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que sur un sujet comme ça, il y a des extrémistes des deux camps. Voilà. Il y a des hommes qui estiment qu'on leur fait un faux procès et qui se réfugient dans une position défensive slash agressive. Et vous avez aussi, parce que le féminisme est un courant qui est divisé, hein. Certains courants féministes ne s'apprécient pas du tout entre eux, avec des visions extrêmement différentes de la question. Et par exemple, il y a des représentants du courant féministe en France qui sont tout à fait capables de passer sur ce chat en disant « Ah, le chat de Samuel Etienne, j'ai quand même vu des dingueries sur le sujet. Ce mec est quand même un ennemi du féminisme. C'est-à-dire que dans mon chat, des mecs aient exprimé des idées qui ne sont pas les miennes, que je reprends quand je les vois, à qui j'essaie d'expliquer qu'il faut réfléchir à ce sujet, que manifestement il y a un problème de réflexion sur le sujet. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont capables de me reprocher que dans mon chat, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Moi, je pense que c'est bien que ça puisse se lire, parce qu'on voit qu'il y a un problème et qu'on n'a pas encore assez avancé, réfléchi ensemble, et qu'il y a encore des garçons qui ont besoin de réfléchir à ce sujet. Au moins, on le voit, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt... Alors, évidemment, je pourrais avoir un... Je préférerais avoir un chat qui d'une façon unanime et compris ces sujets-là, voilà. Mais d'avoir un espace où on peut réfléchir ensemble sur la question me semble pas mal non plus, quoi. Voilà. Après, le problème, c'est que les extrémistes des deux côtés, sur n'importe quel sujet, en fait, poussent les gens après à se radicaliser, voilà, dans leur pensée, et justement à ne pas faire œuvre de nuance, comme le disait quelqu'un au tout début de ce stream sur... globalement, on disait que le monde dans lequel on vivait manquait de nuances. Le problème, c'est que quand vous avez des militants très radicaux, très convaincus de leur combat, il est juste, mais parfois, dans la manière de mener un combat, on arrive bien à le foutre en l'air, quand même, ce combat. Voilà. Il y a des gens qui, sous prétexte que leur combat est juste, en fait, vont être extrêmement radicaux, sinon extrêmement agressifs, sinon extrêmement violents dans leur façon de porter ce combat. Ce qui va radicaliser le camp d'en face, et parfois même une partie des gens qui sont un petit peu entre deux, qui ne savent pas trop quoi. Bon. Mais ça, c'est vrai pour quasiment tous les sujets. Alors je me félicite de ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas d'accord ensemble, il y a des avis extrêmement divers qui s'expriment dans ce chat, dans cette communauté, parce qu'on arrive, tout en constatant qu'on n'est pas d'accord, on arrive quand même à en parler et à passer un moment ensemble. Voilà. Il y a des chaînes Twitch, par exemple, où le chat est beaucoup plus homogène, c'est-à-dire qu'en fait, le chat... globalement pense à peu près la même chose de certains sujets et pense à peu près la même chose que le streamer. Il y a des gens ici, je trouve ça formidable, qui ne sont pas du tout d'accord avec moi sur plein de sujets, y compris des fidèles, des abonnés, des gens qui me soutiennent depuis très longtemps et qui ne sont absolument pas d'accord avec moi. Sur plein de trucs. Mais on a créé ce cadre-là où c'est possible. Alors, du coup, ça fait un chat qui est un peu animé, où on peut dire des choses qui peuvent choquer les uns comme les autres. Quelqu'un disait tout à l'heure, moi je m'en vais, j'en peux plus, alors que c'est quelqu'un d'habitué. Et ça peut, vous, au quotidien, et je pense aux modérateurs, ça peut être fatigant pour vous aussi de voir des prises de position qui vous hérissent en vous disant « c'est pas possible, qu'est-ce que je lis dans le chat de Samuel ?» Mais en fait, moi, je trouve ça assez bien, en fait, qu'on ait un chat qui soit pas homogène. Cam, tu dis « mais du coup, ça te dérange pas d'avoir des ordures avec toi ?» Tu vois le mot « ordure » ? Le problème, c'est que toi, tu es sans doute l'ordure de quelqu'un aussi, quoi. Toi, toi, le mot que tu as utilisé, hein, c'est sûr, tu vois. Le mot que tu as utilisé, ordure, en traitant les auteurs de certains commentaires dans le chat que je n'ai pas vu, mais que toi tu as vu, est-ce que tu penses vraiment que c'est la bonne façon de les amener à réfléchir, à se poser des questions? Tu viens de les traiter d'ordure, quoi. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Tu penses vraiment que c'est comme ça que tu vas les amener à réfléchir? Non, tu vas les amener à se radicaliser. Hein? Ils vont réagir à ta violence verbale par une autre violence verbale. Quel intérêt? Tu vois? Donc, moi, j'ai un chat qui n'est pas très homogène. Les gens sont différents et acceptent d'en discuter ensemble. Voilà. Puis, si ça ne vous va pas, si vous ne voulez pas discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, barrez-vous, allez sur une autre chaîne où tout le monde pensera comme vous. Et puis, bon, du coup, vous serez définitivement dans le camp du bien puisque tout le monde pense comme vous. C'est donc que vous avez raison et que personne ne pense autrement que vous. Donc, c'est que vous avez raison. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Moi, je pense qu'il faut accepter de discuter. Moi, il y a des gens ici dont la pensée me hérisse, donc je me dis, c'est pas possible, comment tu peux penser ça, quoi? On essaie de discuter quand même, quoi. Moi, je ne banne jamais pour une opinion, je banne quand l'opinion est exprimée avec violence. Voilà. Après, je sais que ça en hérisse certains, ça. Mais moi, d'avoir une communauté qui me ressemble, ça m'intéresse pas, en vrai. Merci Mewking pour le Prime. Merci Petrugios pour le 30e mois. Après, il faut comprendre que ça touche l'affect des gens, d'où les réactions épidermiques. Ça, je comprends, Petrugios. Je comprends tout à fait. Mais il faut comprendre que cette réaction épidermique, elle provoque aussi une contre-réaction épidermique, en fait. Et c'est un enfer, quoi. Merci. Merci Défécateur pour le 32e mois. Je suis sûr que ce débat t'intéresse. Défécateur qui fait un super travail sur l'info. Merci sur YouTube et sur Twitch. Merci au calme. Après, attention, hein, là, vous êtes très nombreux à réagir, vous êtes plus de 4000. Il y a peut-être des messages que je n'ai pas lus et que sur lesquels j'aurais fait un petit clic droit bandef. Hein. Qu'on me reconnaisse que sur un live de 4322 personnes, je puisse manquer un ou deux messages. C'est pas parce que c'est écrit dans mon chat que je le valide. Hein. Merci Little Tinette. Merci Red Metal. Dernier jour de taf dans le jeu vidéo, toujours un plaisir d'être là. C'est-à-dire tu changes de secteur, Red Metal ? Tu abandonnes le secteur du jeu vidéo, c'est ça ? Ouais, c'est intéressant. Quoi, tu ne lis pas tous les messages ? Je vais unsub. J'ai lu le tien, Néo. Reste sub. Bon, alors on en est où là ? 10h57, il faut que je m'en aille dans moins d'une heure. Il faut que j'accélère un petit peu. On est toujours sur du léger, hein, puisqu'on va parler du proche horaire. Hier, ça faisait tout juste un an que les attentats du Hamas contre Israël se sont produits. Les dramatiques et monstrueux attentats du Hamas. Et ben du coup, ça fait aussi un an que la réponse disproportionnée du gouvernement israélien et de l'armée israélienne contre les Palestiniens et contre Gaza se poursuit. C'est d'ailleurs la une du monde. Merci Pizzo 20 pour le 11e mois. Gaza écrasé. Par un an de guerre et de chaos, on va en parler. On va parler de cette commémoration en Israël et on va aussi beaucoup parler de l'état de Gaza un an après. Ouais. Et on va... Moi, je sais, bon, c'est ce qui est super, c'est que c'est le chat est parti direct. Là. Alors, ce matin, je suis sûr que les infos faciles et légères. Ouais. Franchement, il y a des jours, Samuel, toi, tu vas passer full vidéo, jeu vidéo, tu vas jouer à Diablo 4 tous les soirs, à Valo l'après-midi, un petit peu Elden Ring le week-end, et tu vas arrêter l'info, parce que franchement, quand tu vas aller, je dis, allez, Proche-Orient, et vous partez direct, bille en tête, pour bien aller chauffer les gars d'en face, là. Putain, sérieux, vous vous rendez compte que parfois, vous me donnez envie vraiment d'arrêter l'actu, quoi. Merci Extreme Kinoax. C'est incroyable, ça. Il y a des jours où l'actualité n'aide pas, ouais, il y a des jours où le chat n'aide pas aussi. Hein. Mais franchement, hein, à chaque fois que je lance une revue de presse, je fais hop, 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 hop. Quand j'ai vu l'actu ce matin, entre le procès, la criminalité, le budget et Gaza, je me suis dit, tiens, je vais encore prendre cher. Et les modos, vous pensez aux modos ? Pensez un peu aux modos ? À partir bille en tête comme ça alors qu'on n'a pas lu une ligne ? Sérieux, quoi. Un jour, je vais passer full jeu vidéo, moi. Arrêtez de me casser les couilles avec ça. Allez, mettez un peu de retenue, un peu d'intelligence dans vos trucs là. Arrêtez de vous chercher non-stop certains. C'est la lune du monde donc. Gaza écrasé par un an de guerre et de chaos. Un an après le début de l'offensive lancée par les Israéliens en représailles aux attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, c'était il y a un an donc et un jour. L'enclave palestinienne n'est que ruine et désolation. Au lourd bilan humain, près de 42 000 morts, 100 000 blessés, s'ajoute la destruction des infrastructures et un profond traumatisme pour les survivants. Merci le Croix-Rousse. Bande de Gaza, année zéro, titre Le Monde, page 2, dans sa dernière édition. Voilà, et donne la parole d'abord à des Palestiniens au moment des attentats du Hamas. Comme ce monsieur qui dit « J'ai vu les gars dans la ville israélienne de Sderot. Hein » 3 km de chez moi, j'avais l'impression qu'ils contrôlaient les alentours de Gaza, j'en croyais pas mes yeux. Hein ? Est-ce que nous sommes vraiment en commande ? J'étais fier de ces centaines de jeunes hommes qui semblaient réaliser l'impossible, hein ? Qui faisaient les premiers pas pour libérer la Palestine. vue de Gaza le 7 octobre, les premières heures du 7 octobre, rappellent le monde, est d'abord une libération. La clôture militarisée qui entoure l'enclave depuis les années 90 est brisée, de même que le blocus mortifère qu'Israël impose à 2 millions de Gazaouis depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007. J'ai cru, dit Amal, que c'était le jour du jugement. Nous pensions que des armées arabes et musulmanes allaient se joindre à nous, comme le promettaient les commentaires des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les premières heures. Et puis après, certains de ces mêmes Palestiniens ont vu qu'ils ne ramenaient pas seulement des soldats, ces combattants du Hamas, mais aussi des civils, des gens âgés, des femmes, des enfants, que des Gazaouis se mettaient à piller les kibboutz israéliens. J'ai eu honte, juge Naed, dès avant le bilan des morts israéliens établi 800 morts civils, 400 parmi les forces de sécurité. Le Hamas a tenté de s'exonérer d'ailleurs de ces massacres, en évoquant le chaos dont auraient profité des Gazaouis, des habitants de Gaza, alors que l'organisation Human Rights Watch a démontré depuis que le mouvement islamiste et d'autres groupes armés palestiniens s'étaient bien rendus coupables de la plupart des exactions qui avaient été perpétrées ce jour-là. Durant 3 semaines, donc là c'est la réponse israélienne ensuite, hein, que vous connaissez, une fureur aveugle s'abat sur l'enclave. Dans la ville de Gaza, les bâtiments administratifs et les symboles du pouvoir sont pulvérisés, un par un. Bientôt, ce seront les écoles, les universités, les tribunaux, les cimetières, les sites archéologiques. Des dizaines de membres d'une même famille parfois disparaissent en une seule frappe. Un an après, près de 42 000 Gazaouis ont été tués selon le ministère de la Santé de l'enclave. 2 semaines plus tard, Israël choisit de diviser le territoire palestinien en 2 parties. Je pense que vous vous en souvenez, l'infanterie se déploie dans la moitié nord de l'enclave, ville de Gaza comprise. Elle chasse vers le sud 1 million d'habitants de cette agglomération afin d'avoir les coups des franges pour démembrer les bataillons du Hamas. Les Gazaouis vivent un nouvel épisode de la Nakba, la catastrophe qui frappa leur aîné à la naissance de l'État d'Israël. En 1948, nombre d'entre eux refusent d'ailleurs de partir. Tous craignent de s'aventurer sur des routes et vers des zones que l'armée prétend être sûre, alors qu'elle y ouvre le feu régulièrement. Israël va contraindre ses foules à quitter la ville. Au fil des mois, les murs de Gaza se resserrent. L'enclave a rétréci. Entre ces murs, 2 millions de Gazaouis se serrent sur moins de 40% du territoire. Ils fuient d'un abri à l'autre, au rythme des raids de l'armée israélienne. Selon le travail des chercheurs, 59% des bâtiments de l'enclave ont été endommagés ou détruits depuis le début de la guerre. Combien de temps cela peut-il durer ? En Israël, la droite messianique au gouvernement rêve encore de vider l'enclave d'une partie de ses habitants, puis d'une recolonisation. Les généraux proches du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envisagent pour leur part que l'armée y poursuive ses raids pendant encore plusieurs années. Ils entendent y dégrader peu à peu les dernières capacités de nuisance du Hamas. Le Monde, dans cette dernière édition, dit qu'à ce jour, près de 2% de l'enclave a été tué dans les bombardements, selon les chiffres du Hamas lui-même. En l'espace d'une année, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza a causé la mort d'au moins 41 870 Palestiniens. Bilan publié dimanche 6 octobre par le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, placé sous la tutelle du Hamas, des chiffres jugés fiables par l'Organisation des Nations Unies. En effet, lors des précédents conflits à Gaza, l'ONU n'avait pas trouvé d'écart significatif entre le bilan des autorités locales et le décompte établi par ses propres experts. Si les statistiques du Hamas ont pu faire polémique, vous en souvenez, au début de la guerre actuelle, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les autorités israéliennes elles-mêmes ne contestent plus vraiment l'ordre de grandeur de ce bilan. Les mineurs, les femmes, les personnes de plus de 60 ans représentent plus de 60% des morts, c'est-à-dire que les personnes âgées, les femmes, les enfants sont surreprésentés dans les victimes. La part des enfants est particulièrement frappante. Sur les 34 344 noms, 710 ont moins de 1 an, plus de 11 000 moins de 18 ans. Si on rapporte maintenant ces 41 870 morts aux 2,2 millions d'habitants de la bande de Gaza, ça signifie que près de 2%, 1,9% de la population a été tué. À l'échelle de la population française, par exemple, ça représenterait 1,3 million de morts. Dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, rappelle le monde, jamais une guerre, parce que c'est une guerre, n'avait causé autant de victimes. La seconde intifada, par exemple, 2000-2005, 3000 morts côté palestinien, 1000 côté israélien. Les 4 précédentes guerres de Gaza ont coûté la vie à 4000 Palestiniens et même la guerre de 1948-1949, moment charnière qui mène à la création de l'État d'Israël et à l'exode forcé de 700 000 Palestiniens, avait été moins meurtrière pour ce peuple. On estime que 13 000 d'entre eux ont été tués au cours de ces combats. Voilà le rapport à l'histoire. Je vous lis un petit peu. Et puis on se penche aussi sur la commémoration en Israël, évoquée par l'humanité, des attentats du Hamas. Je vous lis. Il n'y a qu'aux écrits. Ce qui est triste, c'est qu'Israël est en train de former la prochaine génération d'extrémistes islamistes anti-juifs en vous parlant comme ça. Oui, évidemment. Des traqueurs. Je suis juif, mais ne cautionne absolument pas ce qu'il se passe. Alors, hier, on commémorait l'anniversaire de un an des attentats du Hamas et l'humanité constate qu'en Israël, il y a du deuil et puis il y a de la colère aussi contre le gouvernement Netanyahou. Hier, il y a eu des cérémonies en mémoire des personnes tuées lors de l'attaque du Hamas un peu partout en Israël. À 6h29 exactement, un an jour pour jour et à l'heure exacte à laquelle s'est produite l'attaque sanglante du Hamas, les cérémonies commémoratives qui sont déroulées un petit peu partout en Israël ont débuté par une minute de silence. Tout d'abord près du Kibbutz Reim, hein, sur les lieux du massacre, vous savez, du festival de musique Nova, où plus de 370 personnes, hein, des jeunes pour la plupart, ont été tuées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré persona non grata en Israël d'ailleurs, pour ses déclarations sur ce conflit, a déclaré « C'est un jour pour la communauté internationale pour réitérer d'une voix forte notre condamnation totale des actes odieux du Hamas. Il est temps de libérer les otages et faire taire les armes », a-t-il ajouté, sur les 251 personnes enlevées, 97 sont toujours otages à Gaza, dont 34 considérées comme mortes. Un an après le but affiché de Benjamin Netanyahou, éradiquer le Hamas et ramener tous les otages, est loin d'être atteint, à supposer que ce soit sa volonté réelle d'ailleurs. Malgré l'émotion, la colère des familles israéliennes et plus largement celle de nombreux Israéliens s'exprime publiquement à l'encontre d'un gouvernement considéré au mieux comme incapable, au pire comme utilisant la situation pour se maintenir au pouvoir, quitte à provoquer une guerre sans fin. Lors d'une conférence de presse, les familles des otages ont accusé Benjamin Netanyahou d'avoir torpillé les accords possibles pour une libération des Israéliens toujours retenus. « Nous sommes en train de changer la réalité de la sécurité régionale sur le terrain pour le bien de nos enfants », ça c'est ce que dit Netanyahou, « pour notre avenir, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de 7 octobre », a affirmé le Premier ministre israélien lors d'une réunion de son gouvernement après avoir fait référence aux 7 fronts auxquels doit faire face Israël, Gaza, Cisjordanie, Liban, Syrie, Iran, Yémen et Irak. Ça, c'est la vision, bien sûr, de Netanyahou. Voilà. J'ajoute à ça un témoignage de Claude Sarcey, qui est un Français juif, coprésident de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, et qui, lui, comme beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Juifs, appelle à la paix et à la reconnaissance d'un État palestinien. Merci Aurélien. En septembre 93, rappelle-t-il, Claude Sarcey et beaucoup l'ont oublié, et là on a frôlé la paix à l'époque. En septembre 93, Bill Clinton, Yitzhak Rabin, premier ministre israélien de l'époque, hein, quand même, Yasser Arafat, président de l'OLP, signe les accords dits d'Oslo, hein, approuvés par la majorité des Israéliens, en vue de déterminer les conditions de la mise en place d'un État palestinien. C'était en 93, c'est pas si vieux. Seule solution permettant au peuple israélien et palestinien de vivre en paix, dont toutes les personnes un peu sensées sont convaincues. En même temps, nationalistes et intégristes religieux israéliens développent une campagne prétendant que le Premier ministre Yitzhak Rabin avait bradé les intérêts israéliens, hein, ce qui va du coup radicaliser certains juifs, certains israéliens entendant ce discours, voilà, campagne qui aboutit à l'assassinat d'Itzhak Rabin par un extrémiste israélien. C'était en 95. Netanyahou devient Premier ministre, déjà à l'époque. Hein. Il rend les négociations pour la paix de plus en plus difficiles. La mort de Yasser Arafat en 2004, le retour aux affaires Netanyahou en 2009, enterre cette solution politique des deux États. D'un côté, un mouvement palestinien fracturé, avec une autorité palestinienne discréditée auprès du peuple palestinien, le Fatah, partisan des négociations de paix, éliminé militairement par le mouvement concurrent, le mouvement islamiste du Hamas. De l'autre, des gouvernements israéliens successifs de droite, d'extrême droite, des partis religieux qui gouvernent ensemble, comme le Hamas, qui ne souhaite pas la paix, qui accélère la politique de colonisation au sein des territoires occupés. Radicalisation de part et d'autre, de plus en plus meurtrière du Hamas, mais aussi de l'ensemble des soutiens de l'Iran, Hezbollah au Liban du Sud, Houthi au Yémen, et côté Israël, extrême droitisation des gouvernements israéliens qui éloignent chaque jour d'une possibilité de paix. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance cette attaque terroriste sans précédent sur Israël. Acte barbare, rappelle Claude Sarcey, je rappelle qu'il est donc qui est un juif français. Acte barbare qui blesse plus de 2000 personnes, cause la mort de plus de 1200 militaires et civils, dont des femmes, des enfants, des personnes âgées, et prend plus de 200 personnes en otage. Et ce monsieur, il dit aussi, la riposte vengeresse et meurtrière du gouvernement israélien doit être condamnée sans réserve. Elle méprise la vie des otages. Elle s'acharne sur la population palestinienne en Cisjordanie et surtout à Gaza, où, à la suite des bombardements ininterrompus et de l'invasion militaire, le bilan est dramatique. Le conflit s'étend dorénavant au Liban, puisque depuis octobre 2023, le Hezbollah pilonne de façon incessante la partie nord de l'État israélien, ce à quoi l'État hébreu répond par un intense bombardement quotidien, désormais sur le Liban sud. La guerre entraîne la guerre. Elle sert les intérêts des deux parties, des extrémistes des deux camps, mais en aucun cas les intérêts des deux peuples, israéliens et palestiniens. C'est l'humanité, Isara Kiri, qu'on est en train de lire. Du Premier ministre israélien qui espère, via ses conflits, sauver sa tête à la suite, entre autres, de la décision de la Cour suprême d'invalider une disposition majeure de sa réforme judiciaire antidémocratique. Des groupes terroristes fascistes financés par des États islamiques qui tiennent toutes les populations de Gaza ou du Liban sous leur diktat, le rêve absolu étant de rayer Israël de la carte en jetant les Juifs à la mer. Nul ne peut prétendre qu'il peut se battre pour le droit des Palestiniens à disposer d'un État démocratique et indépendant. La position donc de ce mouvement, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, que représente ce monsieur, organisation juive, laïque et progressiste, n'a jamais varié, dit-il. La communauté internationale, la France en particulier, se doit de réagir de toute urgence après avoir totalement ignoré la question palestinienne depuis plus de 20 ans. L'urgence diplomatique est d'exercer une pression sur Netanyahou afin d'imposer le retrait immédiat de l'armée israélienne de la bande de Gaza et du Liban et de reconnaître l'État palestinien. La création d'un État palestinien est la seule solution en faveur de la paix dans la région. Et ça, tout le monde le sait. Voilà. Merci PK. À vous les amis. Et après, prendre un petit café. Merci Bubble Jean, je vais aller voir ça. Le roman éthique, c'est trop compliqué pour moi. Pas, bah, justement, c'est ça, en fait, sur un sujet aussi complexe que ce qui se passe au Proche-Orient depuis 1948, et même avant, parce qu'il faut remonter bien avant dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe dans la région. Effectivement, c'est compliqué. En fait, ça demande vraiment des recherches, de la réflexion, des lectures. Et, mais c'est un travail qui est nécessaire et qui te permet de comprendre plein d'autres choses aussi, quoi. Salut Marie et son nuage pour le message et bienvenue. Ça fait déjà un an qu'on parle de conflit, mais j'ai jamais compris comment ça a commencé, ni qui est le méchant ou le gentil. Mais dis-moi, il faut arrêter de réfléchir en méchant et gentil. Tu n'arriveras jamais à comprendre la complexité du monde dans lequel on est, si tu penses en méchant et en gentil. Bref, un grand flou du pourquoi et du comment ça a commencé. C'est un média ou une source d'information, quelle qu'elle soit, qui t'explique d'un sujet complexe, c'est simple, je vais t'expliquer. Il te ment déjà. Ce n'est pas le sujet simple. Voilà. Et un média, un émetteur d'information, quel qu'il soit, qui te dit « Attends, je vais t'expliquer qui est le méchant et le gentil dans ce conflit », il te ment également. Il te ment également. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, ça fait 30 ans que je me penche quasiment au quotidien sur le sujet. Je suis même allé sur place à une époque. Et je ne garantis pas avoir un regard pertinent sur la question. Est-ce que tu penses voir de ton vivant la paix au Proche-Orient? Je te demande ça parce que tu es très âgé. Merci, dit du spam. Je l'espère, oui. Comme je vais vivre encore très longtemps, j'aimerais bien vivre ça. Ouais. Il y a Domastro qui dit, c'est là où tu te trompes, Samuel, il faut trouver le méchant et après on voit les Avengers régler le problème. Voilà. Ouais, Macaroni a... J'aime bien ce que dit Macaroni. 7. Dans le chat, le paradoxe, c'est l'immense complexité de ce conflit, mais l'écrasante simplicité du constat suivant, des innocents meurent ou souffrent beaucoup trop depuis trop longtemps. Force à ceux qui travaillent pour l'avenir et la vie, peu importe le camp. Alors, est-ce qu'on peut tous s'accorder sur le fait que Macaroni a totalement raison, quoi? Mais Don't You Go, qui défend la colonisation, à part les extrémistes israéliens? Évidemment que tout le monde la dénonce. Non, tu vas quand même pas nous apprendre ici que la colonisation est un fait monstrueux. La colonisation des extrémistes juifs en Cisjordanie, notamment, qui se fait de manière souvent extrêmement violente. Évidemment. Mais le comportement de ces colons israéliens ne représente pas l'intégrité du peuple israélien. C'est ça qu'il faut que tu ajoutes dans ta phrase, pour être tout à fait complet, et pour entrer dans une pensée un peu plus complexe. Quelle heure il est? 11h18, ça va encore un petit peu. Bon, alors on va finir sur une note plus légère, puisqu'on va parler d'immigration. Oui, c'est la matinée Étienne, c'est quand même un petit repère, un petit moment un peu chill, on parle des sujets légers. Donc ce matin, on a parlé de criminalité, on a parlé de viol, on a parlé de culture du viol, on a parlé du Proche-Orient. Voilà. Et on finit sur une petite note légère, un peu pour se détendre un petit peu sur l'immigration. Et le pire, c'est que c'est le sujet le plus léger que je vais aborder ce matin, puisqu'on va parler d'un jeune homme assez incroyable qui s'appelle Abou Sangaré, qui a été primé à Cannes, voilà, dont le film dans lequel il joue, l'histoire de Souleymane, sort aujourd'hui au cinéma et qui fait la une. Avec Calypso qui arrive une heure après le débat. Tu vois, Calypso, il est arrivé à 2 minutes, il dit « Ouais, culture du viol, carrément !» On a parlé pendant une heure. Tu te feras le replay plutôt que nous sortir des jugements à l'emporte-pièce. Là. Putain, ça, on a parlé une heure littéralement de la culture du viol. Et t'as Chouchou qui arrive là après la guerre qui dit « Ouais, culture du viol, carrément !» On va pas tout expliquer à chaque fois. R-E-P-L-A-Y. Je vais passer au gaming 100%, moi. Donc c'est plutôt positif parce que l'histoire est plutôt belle, mais ça va nous permettre quand même de avec Libération, de évoquer ces sans-papiers qui en France ont un emploi, sont totalement dans une volonté de s'intégrer, voilà, et de participer à la vie collective du pays, mais à qui on ne donne pas des papiers comme ce jeune. Donc on va parler un petit peu de ce sujet. Alors paradoxalement, c'est le sujet le plus léger ce matin parce qu'il y a aussi un aspect positif dans cette histoire. Voilà. À cause de la personne là qui vient de me relancer sur la culture du viol alors qu'il a raté le débat, je vais me prendre un café parce que ça, il m'a fait tilter. Donc je vous mets 2 minutes en pause, je vous mets une petite musique et puis je vous lis ce papier et après je vous parle de, je vais lancer un grand appel pour vous puissiez, pour les habitants de la région de Marseille, venir jouer avec moi dans mon prochain Time Out. Ok ? Qu'est-ce que je vais mettre comme musique ? C'est bien ça ou pas ? Voilà, parce qu'il reste des places. Enfin, on n'a pas encore choisi des viewers en fait. Ok ? Ok, on se retrouve dans 3 minutes, le temps de faire un café. Café, c'est pire, non ? Non, mais avec un peu de chance, les jugements à l'emporte-pièce sont partis pendant un café aussi. Allez, à tout de suite ! Déjà, faut que je bosse là. Oh. Attends, il y a une pub qui se termine dans 29 secondes là. J'ai lancé un écran pub pour payer le PC que je suis en train de me faire là. Joe m'a donné des nouvelles là. Donc, carte graphique, très gros update. Ok, on rajoute un NVMe à 2 teras, ce qui te fait 3 teras en NVMe. Il va formater le tout, pousser la machine toute la journée pour détecter d'où pouvait venir la panne. Ok. Donc voilà, j'ai lancé une page de pub là pour financer le nouveau PC là. Non, parce que c'est mon ancien PC de stream que je reformate là et que je booste là. Petite carte d'acquisition, nouvelle carte graphique, un disque dur en veux-tu, en voilà. Voilà, une bête. Voilà, avec ça, je vais pouvoir streamer tous les jeux que je veux et notamment grâce à la carte d'acquise. Pouvoir brancher bien proprement pour pouvoir streamer de la PS, hein, pouvoir streamer de la Switch avec pour le petit Malo, tout ça. Voilà. Comme carte graphique, je sais pas ce que je prends, mais j'ai pris un truc de fou. Enfin, d'après la facture, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà, c'est un truc customisé. La VR pour adulte, on connaît bien. Hein ? Non, c'est pas pour la VR pour adulte. Non, c'est pas de la VR pour adulte. Non, 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 pas du tout. Combien la facture ? Bah, je vais pas dire mon go là parce que ça pique les yeux là. J'ai des petites taches, sérieux. Merci Sorti, justement, pour le 6e mois. Merci Le Consultant pour le 31e mois. Merci Fantomy pour le 2e mois. Merci Kish Lorraine pour le 13e mois. Merci PK. Merci à tous les 4, 5. Ah, mais c'est de la VR éthique. Ah, bah, ça va alors. Non, pas 4000 balles, vous êtes fous. Non, c'est un PC que j'ai déjà. C'est juste, c'est juste qu'on l'a remis à niveau, quoi. Voilà. C'est pour. Voilà. C'est pour notamment pouvoir streamer tout ce que je veux dans mon, au quotidien quand je suis tout seul, quoi. Pop My Ride version PC, c'est ça, ouais. Il y a du sopalin sur son bureau, c'est pas pour rien. Non, je l'ai enlevé le rouleau. Lily TV, j'irai voir Acme Girl, j'irai voir. Bon, allez, on finit sur des trucs sympas. Bah, fixe. Portable, c'est quand je voyage, mais là, c'est fixe. On finit sur un truc sympa, sur un article dans Libé et un petit appel à candidature pour que vous, viewers, notamment de la région de Marseille, puissiez venir jouer avec moi à Time Out. Ok. La révélation Abou Sangaré, c'est sur ce jeune homme-là, la une de Libération, primé et sans papier, il est toujours d'ailleurs. Prix d'interprétation à Cannes pour son premier rôle dans l'histoire de Souleymane, en salle donc aujourd'hui. Le Guinéen de 23 ans raconte à Libération son incroyable parcours et ses difficultés pour obtenir sa régularisation. Édito. L'édito, c'est un article où le journal donne son avis. Signé Alexandra Schwarzbrod, qui écrit dans Libération d'excellents éditos, si, en tout cas c'est mon sentiment, vous n'êtes pas obligé de le partager, et qui écrit « L'acteur principal de l'histoire de Souleymane, dont ça aujourd'hui, est un jeune Guinéen, Abou Sangaré, qui vit depuis 7 ans à Amiens. Sans papier, après 3 refus de régularisation, alors même qu'une entreprise locale, dans une activité en tension, est prête à lui offrir un CDI. Abou Sangaré a été ovationné au Festival de Cannes quand il s'est vu décerner le prix du meilleur acteur par le jury de la sélection Un Certain Regard, incroyable pied de nez à l'actualité politique française, alors que l'extrême droite, qui a besoin de faire oublier ses erreurs de casting parmi ses nouveaux élus, ah, on se souvient ça, et la menace judiciaire qui plane sur sa patronne, agite le fantasme de la submersion migratoire, et que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui piaffe depuis tant d'années pour être ministre, donne aussi dans la surenchère. Depuis son succès à Cannes, Sangaré a été affirmé qu'il pouvait déposer une nouvelle demande de régularisation à la préfecture. Et il est fort possible, d'après Libération, que le jeune homme obtienne cette fois ses papiers. Mais combien de Sangaré, combien de jeunes hommes comme celui-ci, hein, sont dans le même cas sans avoir la chance qu'une mise en avant médiatique puisse ainsi améliorer leur sort? Combien de sans-papiers intégrés dans la société, c'est-à-dire dotés d'un travail, d'une famille, vivent au quotidien avec la menace d'une expulsion? Régulariser celles et ceux qui travaillent serait déjà un premier pas, dit Libération. En décembre, le patron du MEDEF lui-même avait tiré la sonnette d'alarme. La France aurait besoin de près de 4 millions de travailleurs étrangers d'ici à 2050 si elle veut maintenir ses modèles économiques et sociaux. Tu te fous de ma gueule, sniffeur de pète, là? Tu fais exprès d'être con ou quoi? Mais c'est pas possible, c'est de la provocation à ce niveau-là. T'as été bercé trop près du mur ou quoi, sniffeur de paix? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça a écrit, il pouvait pas faire du cinéma dans son pays. Mais t'es complètement con! Tu connais même pas l'histoire du gars? T'as même pas lu l'article? Allez, je te mets un petit Théo. Il est où mon sniffer là? Tu vas réfléchir 10 minutes, tu réfléchis là. Ça va la provocation là? Tu connais même pas son histoire? Ah, il a déjà eu un Théo. Trop rapide les... Tu connais même pas son histoire? Oh putain! Incroyable. Oh nom de Dieu! Bon. Donc je continue l'article, on reste entre gens de bonne compagnie. Donc le MEDEF dit que la France aurait besoin de 4 millions de travailleurs étrangers d'ici à 2050 si elle veut maintenir son modèle économique et social. Lisez l'interview de Sangaré, qu'on va pouvoir lire là, avant que les... Nous avons recueilli, elle est poignante, le jeune Guinéen ne rêve pas d'Hollywood. Voilà. Il rêve juste de pouvoir intégrer l'entreprise de mécanique aujourd'hui qui lui propose du travail. Lisons cette interview, enfin une petite partie seulement. Je vous invite à la lire dans Libération. Cette presse qu'on a, on a la chance d'avoir une presse de qualité, de presse écrite en France. Si vous ne la lisez pas, si vous ne l'achetez pas, à un moment, elle va mourir, quoi. Alors, pourquoi avoir passé ce casting à Amiens, dit-il? Bah, il dit, le casting, j'y suis allé parce que... J'avais pas de travail à l'époque et une association m'a dit qu'on cherchait des jeunes Guinéens pour le film. Pour le coup, c'est manifestement, j'ai bien compris, ça c'est chez moi, hein, c'est le petit mail que j'ai, c'est ma petite réunion de midi ça. C'est le petit Teams de midi, c'est pas chez vous. Justement, comment êtes-vous, lui demande Libération, arrivé de Guinée en France ? Voilà. Ma mère était très malade, explique-t-il. Hein, c'était un problème mental, il fallait être à ses côtés. Quand ma grande sœur s'est mariée, je me suis retrouvé responsable de ma mère et de ma petite sœur. On est à Cinco, dans le sud-est du pays, petite exploitation agricole. Il faut s'occuper des bêtes, aller au champ, gagner de l'argent, en faisant le saisonnier aussi, c'est compliqué. J'ai plein de... Hop. Plein de petits rappels. Des amis m'ont incité à tenter ma chance en Algérie, où on cherchait de la main-d'œuvre, où je pourrais gagner plus d'argent. Je ne voyais pas du tout quitter le continent africain, sachant que ma mère comptait beaucoup pour moi, même si j'avais eu un oncle qui pouvait s'occuper d'elle pendant un temps. Je suis donc resté 3 mois en Algérie, dans le sud, dit-il. Il fallait se réveiller à 4 heures du matin, attendre la nuit dans les rues que les patrons viennent te chercher. Il y en a qui te prennent pour la journée ou pour la semaine. Parfois, on te dit, après avoir fait tout le boulot, tu dégages. S'ils ne te payent pas, tu ne peux rien dire. J'ai hésité à rentrer alors en Guinée, mais on était plusieurs jeunes et on est passé en Libye, où c'est devenu très dangereux, dit-il. J'ai passé 2 semaines en prison là-bas sous la menace de gardiens qui voulaient me rançonner. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai fini dans un canot pneumatique avec plus de 120 personnes, direction l'Italie. En France, ensuite, vous arrivez à Amiens. Pourquoi vous arrivez à Amiens ? Demande Libération. Certains diront le hasard. Moi, je dis le destin, dit-il. Quand je suis arrivé à Paris où je connaissais personne, je suis arrivé dans un café et là, un monsieur m'a dit que rester sur Paris était très dangereux pour moi, avec beaucoup de contrôle de police, que c'était risqué. Il me conseille donc d'aller à Lille. Mais à la gare du Nord, il était 21h. J'ai suivi des voyageurs qui montaient dans un train direction Amiens. Une fois sur place, il fait nuit, j'ai froid. Je demande à un jeune homme où je peux aller et il me dit qu'il faut se présenter à la police. Merci ce voyageur pour l'abonnement offert à caféine. Merci ce Horty. Je l'ai pris pour un fou. Je venais de partir de Paris pour ne pas être trop rapidement contrôlé. Le mec me dit d'aller au poste de police. Le monsieur m'a assuré qu'en tant que mineur, je ne serais pas incarcéré. Il m'a même accompagné jusqu'à la porte du commissariat. J'ai sonné plusieurs fois. Mais quand un agent m'a ouvert, j'ai été accueilli. Même au poste, ils ont été sympas. Après toutes les galères, ce qui m'arrive en France, c'est comme si j'étais dans un film, dit-il. Certes, j'ai été rejeté à plusieurs reprises par l'administration française, mais du côté de la population, dit-il, des gens là-bas, il parle des gens d'Amiens, c'est le contraire. Je suis émerveillé, dit-il, de tous ces bénévoles dans les associations, les professeurs dans les 2 lycées où j'ai pu être inscrit, les patrons d'entreprise, les collègues de travail. Vous vous rendez compte que je ne parlais même pas français en arrivant à Amiens, dit-il. Je n'avais jamais été scolarisé en Guinée. Est-ce que vous voulez continuer à trouver des rôles au cinéma ? Lui demande Libération. Ça me plaît, mais c'est pas mon rêve. C'est la fin de l'article. Je vous lis qu'une petite partie. Mon rêve, c'est de rendre à tous les gens d'Amiens au moins une partie de ce qu'ils m'ont donné. C'est de pouvoir entrer dans l'entreprise, entreprise de mécanique, je le rappelle, qui me propose du travail. Voilà. Évidemment, ça ne reflète pas l'ensemble des personnes en situation irrégulière en France, mais voilà, ces histoires existent. Des gens qui veulent juste travailler, s'insérer et qui n'ont pas de papier. Voilà. Voilà, ça, c'est le coup de projecteur de Libération ce matin. Voilà. C'est une belle histoire. On finit sur une belle histoire. Hein. Il y a un truc un peu lumineux ce matin dans l'actualité, je vous l'ai mis de côté, quoi. Dommage qu'il faille avoir un premier rôle et un César pour qu'ils puissent valider leur papier, dit Xun. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Pub déguisée pour ça me plaît, c'est-à-dire ? Où ça ? J'ai pas vu. Voilà. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, c'est à lire dans Libération ce matin. On va finir sur un truc encore plus positif, parce que maintenant, les amis, on va parler de Time Out. Bon, demain, c'est MVP, je vous rappelle. Une petite émission que j'aime bien, là, sur une émission qui explore le monde professionnel, les secteurs d'activité, les métiers pour que chacun, les plus jeunes, puissent trouver leur voie ou les plus âgés qui travaillent déjà puissent éventuellement changer de voie. C'est un peu le propos de cette émission, c'est tous les 15 jours, voilà. Et donc, autour de Ça me plaît demain, avec cette thématique, est-ce que quand on veut, on peut ? Est-ce que la volonté, le travail, l'engagement suffit pour trouver sa voie et réussir ? Je spoil un petit peu. La réponse, c'est non, effectivement. Hein. On peut être extrêmement freiné, empêché, selon son origine social, géographique, son réseau, sa santé, son handicap, sa santé mentale également. Donc, c'est des sujets qu'on va évoquer demain, que développera notamment Jean Massier, qui est non pas l'un de mes invités, mais mieux, l'un des chroniqueurs demain, voilà, qui gentiment nous a fait l'amitié de nous rejoindre sur cette émission. Ludovic B, qui est le taulier, qui est là à chaque émission pour nous parler justement de différents métiers. Et Bacabou, la créatrice de contenu, qui est aussi avec nous. Ça, c'est les trois chroniqueurs. Il y aura aussi trois invités. Donc ça, c'est demain midi. Demain matin, il y aura aussi une revue de presse. Voilà. Mais non, le spoil de l'émission. Ben non, c'est pas un spoil. C'est un teasing. En fait, c'est pas un secret.
C'est pas un secret.
C'est pas un secret. Un secret. Merci, Globule Rouge. Mais c'est pas un spoil. Mais non, c'est mon émission. Mais non, c'est pas un leak. Mais non, c'est mon émission, en fait. Hein? Bon, bref, il y aura Jean demain, quoi. C'est cool. Ok. Ok. Bon. Ludovic a un air d'estanguet. C'est pas faux. Merci, Melunky. Ouais, je sais. Comme qui n'est pas quoi, le veston de cuir sous la chemise, c'est incroyable. Gilbert Roumec, ça parle de quoi cette émission? MVP, ma vie pro, explore tous les métiers, tous les secteurs d'activité. Voilà. À chaque émission, on a un nouveau thème. On a fait un premier thème sur les métiers passion. Qu'est-ce qu'un métier passion? Est-ce qu'on doit vraiment être passionné par notre métier? Deuxième thème sur les conséquences de l'IA sur le travail, sur le monde de l'emploi. On a fait une troisième émission sur travailler à l'étranger. Bonne idée, pas bonne idée. Quatrième émission, quand on veut, est-ce qu'on peut? Point d'interrogation, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est deux fois par mois. Mais non, il n'y a pas étoile. Non, il n'y a pas étoile. Pourquoi vous dites cool, il y a étoile? Merci Satsuma, merci pour le prime. Donc voilà, c'est deux fois par mois et c'est demain à 12h. Et demain matin, il y aura une revue de presse aussi. Et maintenant, on va parler d'une autre émission que je suis très heureux de vous présenter, qui est Time Out, qui est mon grand jeu de culture générale. Grand jeu de culture générale. Là, je vous mets une petite collaboration commerciale. Parce que du coup, l'émission est sponsorisée, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'espère en tout cas. Et donc, on a eu un time-out l'an dernier avec 6 invités, 2 équipes de streamers qui se faisaient face. Un grand jeu de culture générale, culture pop. C'était assez sympa. Je pense que sur ma chaîne YouTube, vous avez les replays. On en a refait un, là, à la rentrée, avec une nouveauté. C'est-à-dire qu'en face des 3 streamers, on avait 3 viewers de la région de Montpellier. Parce qu'ici, on aime les viewers et le chat est au cœur de Twitch, bien sûr. Donc, on s'est dit, on va garder une équipe de streamers et en face, on va mettre une équipe de viewers. Le résultat a été au-delà de nos attentes, c'était super sympa. En plus, les viewers, les vieweuses de Montpellier étaient juste adorables, donc on a passé une super mission. Voilà. Et donc, c'est Henri Tran qui s'est imposé en finale. Et on a une nouvelle émission qui arrive dans quelques jours, un nouveau time-out, cette fois avec un coup de projecteur sur Lyon. Voilà. Du côté des streamers, il y aura notamment Zach Nani, obligé, quand tu parles de Lyon, d'avoir Zach, bien sûr. Et 3 viewers de Lyon que j'ai déjà rencontré, parce qu'à chaque fois que je vais sur place, en fait, je vais sur place pour rencontrer les viewers, on fait un petit vlog et tout pour faire connaissance un petit peu avant, comme ça ils sont un petit peu plus à l'aise en plateau, pour les mettre bien. Voilà, ils sont adorables comme ceux étaient ceux de Montpellier. Et de quoi je vous parle ce matin? De ça. Vous avez vu les effets spéciaux? Vous avez vu là, après celle de Lyon qui arrive dans quelques jours, en gros, bon, la date, je vais vous lancer en quelques jours, mais en gros, octobre, il y aura le time-out de Lyon, et novembre, il y aura le time-out de Marseille. Si vous habitez Marseille ou dans un rayon de 30 km de Marseille, je cherche 3 viewers / viewers. Voilà. Il faut avoir 18 ans, c'est tout. Il faut passer une sélection en ligne, voilà, passer un petit questionnaire pour voir un petit peu si vous êtes des goats en termes de culture générale, de culture pop. Pour ça, c'est très simple. Vous tapez point d'exclamation, hop, je vous l'épingle, time out, dans le chat. Je vous ai épinglé le message là-haut. Et vous avez un lien. Voilà. Ne faites pas maintenant parce que ça va prendre quelques minutes. Vous cliquez, hop. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, ah bah, je vais là. Vous cliquez et ça fait ça. Vous arrivez sur un document où, bon alors Montpellier, Lyon, c'est trop tard, mais vous cliquez sur Marseille. Et là, vous avez toutes les règles, comment va être le jeu et tout. Ça rappelle qu'il faut avoir 18 ans, qu'il faut habiter Marseille dans un périmètre autour de 30 km. Voilà. Et après, tu rentres tes coordonnées, tout ça. Et après, tu pars sur un questionnaire chronométré pour voir si tu as le niveau. Aucun intérêt de tricher, parce que si tu triches et que tu n'as pas le... Ah, Indica, ça le fait rire, les 30 km. Il dit, 30 km, il fait ha ha ha. C'est un coup de projecteur sur Marseille. Donc on ne va pas mettre un rayon de 300 km. Tu veux un rayon de quoi? De 5000 km? Comme ça, on aura des Norvégiens. C'est quoi la blague? C'est une émission. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le concept émission avec coup de projecteur sur Marseille? C'est le concept. C'est rayon? C'est le concept de rayon que tu n'as pas trop? C'est ça. Voilà. C'est pas une émission sur la Norvège, quoi. Voilà. Et j'espère qu'il y aura d'autres villes après, parce que là, on a fait Montpellier, on va faire Lyon et il y aura Marseille, mais j'espère bien sûr qu'il y aura d'autres villes. Voilà. Donc, ce que je vous disais à l'instant, c'est ne trichez pas, parce que si vous trichez sur votre niveau, voilà, ça se verra après en plateau. Et vous serez devant des milliers de viewers et vous vous taperez votre grosse honte, quoi. Voilà. Quimper, Strasbourg, bien sûr. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne trichez pas, parce qu'après, ça va se voir. Ça va se voir. Hein. Donc, voilà. Donc, pour l'exclamation time out, le truc est épinglé là-haut. Mettez-vous le lien de côté. Passez, si ça vous dit, le petit questionnaire, qui est assez sympa, avec des questions du type de celles qu'on posera. Et j'aurai le plaisir de jouer littéralement avec trois d'entre vous, quoi. Sachant que j'ai déjà rencontré ceux de Lyon qui sont super sympas. Évidemment, on prend en charge le déplacement, le voyage, l'hôtel, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, pour le premier time-out Montpellier, il y a le gagnant avait un truc sympa d'ailleurs. Ouais, du coup, c'est Henri qui a gagné, mais ça change à chaque fois, mais il y a un petit truc à gagner, quoi. Voilà. Non, Cyril, on a dit 30 km. Ça discute chaque règle. Et Cyril dit, ouais, pourquoi ce serait pas mieux de dire dans le département? Non, non, c'est Marseille, 30 km, point. Voilà, c'est moi qui décide, point. Qu'est-ce que ça débat de tout, là? Bientôt, ça va vouloir m'imposer une couleur de chaussette. Tu mets des caleçons, mais non, je pense que tu devrais mettre des slips. Cassez pas les couilles, en vrai, c'est 30 km, point. Incroyable, ça. Oh là là! J'aime bien Twitch parce que à la télé, tu peux pas dire que c'est pas les couilles en fait. C'est pour ça que j'adore Twitch. Tendu Sam ce matin. Non, Doctasie, en fait, ça me fait rire de pouvoir rager, de pouvoir te mettre en colère, de pouvoir dire te cassez pas les couilles, de pouvoir de temps en temps lire un commentaire dans le chat et te dire mais putain, c'est pas possible, t'as été bercé trop près du mur. Ça n'est pas possible à la télé. Alors que t'as tellement envie de le dire dans la vraie vie, quoi. Et c'est ça qui est bien. Non, du coup, non, ça sort, tu vois. Et puis je garde pas ça pour moi, tu vois. J'accumule pas toute cette frustration de ne pas dire. Non, ça sort. Non, je suis pas ronchon, justement, ça sort, c'est ça qui est bon. Et après, je suis bien. C'est comme sur Valo quand je rage. Voilà, ça rage, puis après, 5 minutes après, on rigole. Ben là, c'est pareil. Voilà. C'est l'ambiance, quoi. Mais c'est des choses que tu dirais pas IRL? Ah bah si, justement, Gilbert. IRL, je dis ça. Dans la vraie vie. Bah, vous avez le vrai Samuel, en fait. C'est quoi, sondage? Samuel, dois-tu porter des slips, des caleçons, rien du tout? Oh, c'est pas possible. Putain, les modos, vous êtes chaud. Hein. Voilà. Imagine dans question pour un champion, putain, il est trop con, lui. Bah voilà, tu peux pas dire ça, quoi. Alors que dans la vraie vie, tu le penses, en vrai. Bah, au moins, là, vous avez le vrai. Voilà, c'est ça qui est drôle. Puis après, on en joue un peu aussi. Parfois, je surrage aussi parce que c'est drôle. Mais non, Cyril, non, j'ai pas dit que t'étais trop con. Oh non, Cyril, non, pas du tout. Merde. Non, c'est quelqu'un dans le chat qui disait ça. Non, toi, t'es lumineux comme t'es comme le soleil. Ok, 78% des gens sont en train de voter le fait que je ne porte rien sous mes jeans, quoi. Merci Maître Fusil, merci TechVas pour le Prime, merci Milunki, merci, vous régalez. Bientôt Time Out Dunkerque, peut-être pas exagéré Doxy quand même. Time Out Dunkerque. Attends, est-ce que seulement vous avez une gare? Est-ce que vous avez des trains à Dunkerque? Est-ce que seulement vous avez de l'électricité? Il y a peut-être une gare, mais ça doit être au charbon, non? Les trains là-bas. Dunkerque? Les gars, ouais. Pas pousser mes mains dans les orties, quand même. Non, je plaisante. Hein. Je connais pas Dunkerque, mais c'est sûrement très beau. C'est une blague, hein. je connais pas Dunkerque. Je sais même pas où c'est. Tu vois, ça, j'ai pas le droit de le dire, la question pour un champion. Je suis incapable de passer Dunkerque sur une carte. Toi. Vaguement, je mets ça dans le Nord, mais... Il y a des bus gratuits à Dunkerque? Il y a des bus gratuits à Dunkerque? Ouais, c'est cool, ça. Time Out Pisse-Loup? Attends, il y a une commune qui s'appelle Pisse-Loup? Pisse-Loup? Ah ouais. Pisse-Loup, Haute-Marne. Let's go. Combien d'habitants? 60 habitants? Mais ça se trouve, il n'y aura même pas 3 viewers à Pisse-Loup, quoi. Putain, ça doit regarder... hein? Pisse-Loup. Commune rurale, habitat très dispersé. Putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse un time-out? Vous êtes fous, quoi. Ça me fait rire, j'adore. Comment ça, tous frères ou cousins? Arrête, joue pas, tu sais pas, hein? Oh, tout de suite, les jugements, tous frères et cousins, hein, Pisse-Loup. T'es fou ou quoi? T'as jamais croisé des gens qui suivent tes streams en question pour un champion? Ah bah si, bien sûr, quasiment tous les candidats de question pour un champion, maintenant, ils connaissent mes streams. Les plus jeunes parce qu'ils regardent et les plus vieux parce qu'ils sont allés voir, parce que c'est des gens très curieux en général, la question pour un champion, et ils sont allés voir, ils ont bien rigolé. Ça, tout à l'heure, c'est rigolo, du coup, ça crée plein de refs. Et ça parle de jeux vidéo. Et ça, je vous ai vu hier soir en train de crier sur Valorant. Hein, hein, ça crie, hein. C'est trop bien. Des gens vont à Dunkerque volontairement, Erendil. Alors que tout le monde sait que Dunkerque, c'est une ville incroyable. Alors que tout le monde sait que Dunkerque, c'est une ville où la vie est extraordinairement douce. Est-ce que. Où il y a un réseau ferré à Dunkerque qui est fou. Hein, c'est une ville qui est à la pointe de la technologie, notamment en termes d'électricité. Et tu viens dire des choses sur Dunkerque. Ouais, bon, putain, le chat, quoi. C'est du propre. Vraiment, parfois. Hein. Non, c'est pas là-bas qu'il y a un carnaval un petit peu qui est un peu sympa. Ça balance des. C'est pas là que ça balance des harengs sur les gens. C'est pas là qu'ils se mettent à Hôtel de Ville, là, ils balancent du poisson sur les gens en bas. Ça va être une bonne ville, ça. Hein, non, ouais. Si, c'est là, c'est là. Bah alors, vous voyez que c'est une chouette ville. Tu te balades à Dunkerque, tu te prends un poisson sur la gueule. T'as même pas besoin de chercher un resto. La nourriture te tombe dessus. Alors, c'est pas une ville de fou, ça. Alors, qu'est-ce que vous dites des choses sur Dunkerque? Et en plus, et c'est le maire qui balance les poisons, en plus. ville incroyable. C'est fou, ça. C'est fini la revue de presse? Ouais, on est en train de déconner, Brazuca. Bon, donc du coup, les gars, je vous attends. Hein. Ok. Alors, si vous habitez dans une région à Marseille, ou dans un 30 km autour de Marseille, 30 et 1 km, c'est pas la peine de demander, hein, c'est non. Hein. Voilà. Eh ben, vous venez jouer avec moi, et, le lien est en haut, et on va bien rigoler. Voilà. Bon, puis là, on se retrouve, si je suis fou ce soir pour du gaming, parce que Valo me gratte, si j'arrive à bien bosser cet après-midi sur Time Out, il y a un monde où je lance un stream ce soir, mais c'est pas sérieux, parce que demain matin, je suis en revue de presse, demain midi, je suis en MVP. MVP, tout le monde a la ref, c'est bon. Voilà. Et demain soir, je suis en Diablo 4, l'extension Vessel of Hatred, avec les amis... Le Bouzeux, Trivia et AlphaCast. Voilà. Et donc, ça, c'est demain. Donc, voilà. Donc, peut-être ce soir, peut-être demain matin. Tout est sur Twitch, tout est sur Twitch. Et si on achète une maison maintenant à 30 km de Marseille, qu'on s'inscrit là-bas, c'est bon là-bas. Astra Kerbal. Ah, par contre, je ne vous ai pas dit, attendez, il y a une limite. Hein. Attendez. Le formulaire pour Marseille, il est ouvert jusqu'au 18 octobre. Il reste 10 jours. Donc, tu as 10 jours pour acheter la maison, signer les papiers et tout. Il va falloir y aller vite avec le notaire. Hein. Voilà. Donc, toujours 3 streamers, 3 viewers. Je regarde mes notes. Voilà. Et... Putain, j'allais oublier. Merci à TGV Inouï. Ben, en fait, c'est eux les sponsors du... C'est grâce à TGV Inouï qu'on fait les 3 streams, là. Montpellier, Lyon et Marseille. Putain, j'avais oublié. Oh, je suis grave. Heureusement, je... Ben, sans TGV Inouï, il n'y a pas les 3. Voilà. Et devinez comment je vais dans les villes voir les viewers avec... Devinette. Devinez comment je vais voir les viewers. Parce que je me déplace à chaque fois dans la ville concernée pour préparer l'émission. Avec... Non, pas avec un vélo. Non, pas en moto. Non, pas en mobile. Mais vous êtes... Ils sont complètement cons. Non ! Non, pas en skate. Mais non ! Ah, merci ! Y a Juan Patos qui dit TGV Inouï. Ah, quand même. Ok. Juan Patos, t'es VIP. Voilà, ça prendra les autres, là, faire les malins. Alors, hop, Juan, VIP. Voilà, Juan Patos. Attends, ça a marché, attends. Bouge pas, Juan, bouge pas, Juan. Juan, t'es VIP, parce qu'il y en a un qui suit, là, c'est Juan. VIP. Voilà, Juan, t'es VIP. Toi, il a 2 jours d'ancienneté sur cette chaîne, il avait écrit 20 messages, il est VIP. Voilà. Bah oui, mais vous jouez au couillon aussi. Donc, j'y vais en TGV Inouï. Et comment les viewers viennent jouer à Paris ? Comment les viewers viennent jouer à Paris ? Ensuite, grâce à quel mode de transport ? Bah, vous encore, essayez. Avec leurs mains ? Ah, en TGV Inouï. Merci. Voilà. Voilà. Qui a répondu en premier ? C'est Audistoré. Ouais, qui a répondu. Je crois, Audistoré, que tu vas être VIP. Je regarde quand même ton historique. Je suis allé voir l'historique tout à l'heure de Juan pour voir que si je ne mettais pas VIP quelqu'un de problématique. Et là, je vois que de la bonne ambiance, que des bonjours, bonjour à tous. Tu dis beaucoup bonjour, hein, j'ai vu. Ouais, et ben, tu sais quoi, t'es VIP. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, VIP. VIP. Audis Touré. C'est comme Odile de Rem avec un tout. Et voilà, t'es VIP. Voilà. Voilà, moi je récompense ceux qui s'appliquent un petit peu dans le chat. Voilà. Voilà. C'est quoi VIP en fait ? Eh bien, les VIP, tous les matins, ben, je leur rends visite avec les cafés et les croissants. Tous les matins, je fais la tournée des VIP. Voilà. Et tous les VIP dans ma commu, tous les matins, je passe les voir le matin. Voilà. Café, croissant, puis petit massage des épaules. Ouais. MDR, la pub Durex avant d'arriver sur ton live, c'est beau. Je sais, il y a une pub Durex en ce moment. D'ailleurs, j'ai reçu un mail, un vrai mail, il y a 2-3 jours, d'une marque de préservatifs qui nous avait entendu délirer sur les préservatifs en disant, les gars, les préservatifs, c'est l'amour, c'est la vie. Et donc, ils m'ont proposé de m'envoyer des préservatifs à mon effigie. J'ai reçu un mail. Bonjour, monsieur Étienne, nous avons suivi avec intérêt votre mail, votre live où vous parliez de préservatifs et de lubrifiants. Et nous serions très heureux de vous offrir, vous envoyer des préservatifs à votre effigie. Voilà. Quelle taille ? Oh ben, c'est un petit peu indiscret, ça. Merci Valsol pour le prêt. Que tu vas tester en live ? Non. Non, c'est pas... Voilà. Purée, désolé, mais non, merci, c'est-à-dire. Bah, tu les reçois quand ? Bah, non, je ne veux pas demander, attends. Bon, non, non. En fait, je suis allé voir, je me dis, attends. Alors, je suis allé voir, du coup, le site. Parce que j'étais un peu intrigué. Mais attends, c'est quoi des préservatifs personnalisés ? Suspense. C'est quoi des préservatifs personnalisés ? Tu vois, j'ai eu un doute. Est-ce que c'est un préservatif ou au bout du préservatif, il y a genre ta tête ? En fait, moi je m'étais dit ça. Je me dis, c'est... En vrai, c'est bizarre, quoi. Tu vois, j'étais vraiment pas du tout hypé par le truc, quoi. Et en fait, je suis allé voir. Non, c'est en fait, c'est le...
Oh non, Sarah, non. Oh non, Sarah, non. Oh non.
Et en fait, non, c'est l'enveloppe. C'est le... Comment on dit le... Comment on dit l'emballage. C'est l'emballage. Oh non, 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 épinglez pas. Oh non, épinglez pas le message de Sarah, c'est pas possible. C'est l'emballage, en fait. Il y a ta photo dessus, quoi. Voilà. Donc, c'est pas ta tête au bout du préservatif. C'est l'emballage. Voilà. Et donc, voilà, j'ai pas répondu au mail, quoi. Parce que je vois pas du tout... Alors, ma femme est habituée à mes... à ce que ce soit un peu surprenant et jamais tellement là où on attend qu'il soit. Mais là, je pense que si je débarque avec une boîte... Hey, regarde, j'ai reçu une boîte de préservatif avec ma tête sur les emballages. Remarque, je pense que ça va la faire rire, en vrai. Mais bon, je sais pas. Bon, enfin, j'ai pas répondu au mail. Je me vois pas... Je ne saurais pas quoi en faire. En vrai, c'est trop bien, mais pourquoi faire, en tout cas? Pour les offrir dans la rue, une personne âgée qui vient de demander un petit selfie, un petit dédicace, et tu dis tiens mamie, je vous mets un petit préservatif avec ma tête. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Avec un préservatif Samuel Etienne, je dirai à ma copine et voici ma quéquette Etienne. Oh, la pauvre copine, quoi. La pauvre copine, quoi. Elle tue l'amour, quoi. Ah bah ouais, t'es sur le point de vivre l'extase avec ton amoureux et on t'inflige une tête de vieux, quoi. Ah bah, la tension, quoi. C'est des motifs de rupture, ça, en vrai. Garantie 4 à la suite. Ouh, pas mal, Quentin, pas mal. Samuel Etienne, la saucisse thaïlandaise. Waouh. Dis-toi qu'à un moment il y aura quelqu'un avec ta tête au bout de sa nuit. Ouais, bon, on va arrêter là, hein. Oh, 57, en vrai je vous laisse, j'ai un team samedi, une réunion. Ouais. On raid. On a bien ri, en vrai. Merci beaucoup, ça nous a un petit peu détendu là, parce que c'est vrai qu'on a eu des actualités très dures ce matin. Bravo pour la participation, l'engagement dans le débat et tout. Parfois, je rage exprès pour vous faire rire, mais en vrai, je suis assez bluffé de la qualité du chat ici. Ok, qui est en live, là? On va faire un petit raid, puis après, je vous abandonne. Ok. Ah oui, mais attends, tout à l'heure, il y avait un... Attends. Il y a eu plein de... Alors, ne m'en voulez pas, il y a eu plein de propositions de raid fait avec les points de chaîne, plusieurs. Donc, je vais pas forcément choisir. Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai plein. Je regarde. Oh, j'ai plein de potes en live aussi. Oh, mais tout, j'ai tellement de potes en live! Ok. Oh, j'ai envie de faire un truc là. J'ai envie de faire un truc là. J'ai une idée là. Ah putain, il y a trop de gens sympas. Ah, c'est pas facile. Ouais, je vais être en retard, faut que je me dépêche. Trop de trucs sympas. Bon, il y a un truc qui est trop drôle, en vrai. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qui est Evoxia, qui vient souvent dans mes parties Valo, qui est une très bonne joueuse de Valo, et qui est streameuse aussi, qui vient un peu me conseiller, qui met toujours de bonne humeur en plus dans le chat, en vrai, qui est la créatrice de contenu, notamment sur mon chat, en vrai. Et là, elle est en subathon, et là, elle est en train de dormir. Voilà, et ça, c'est... Donc, voilà, elle est en train de dormir, donc la question, c'est est-ce que vous allez réussir à la réveiller? Voilà, ils sont 13 sur sur la chaîne d'Evoxia, parce qu'ils n'en peuvent plus là. Elle est littéralement sur son canapé. Voilà. Et je me demande s'il n'y a pas un moyen. Peut-être qu'elle a mis les alertes follow ou sub. Peut-être que ça va la réveiller. Ok, je charge le raid. Merci. Peut-être. Comment ça, ce soir ? C'est une photo ? Non, c'est pas une photo. Non, c'est... Non, je l'ai vu parler une fois. On va bien voir. Peut-être à ce soir si je suis fou, sinon demain matin pour la revue de presse. Et encore merci pour aujourd'hui. En vrai, je fais le foufou pour vous faire rire, mais c'était vraiment super. Voilà, merci vraiment. Je vous dis à ce soir ou à demain. Merci beaucoup, bye. It's Gigi over. It's Gigi over.